Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Je voulais vous partager cet épisode d'Histoire d'argent dans Histoire de succès. Alors Histoire d'argent, c'est le podcast où je fais parler les gens de leur rapport à l'argent 3 vendredis par semaine. D'ailleurs, je vous invite à aller le découvrir, c'est peut-être l'occasion de le faire. Et en fait, je voulais vous partager cet épisode dans Histoire de succès, déjà pour vous faire découvrir le podcast, parce que je trouve qu'il est génial et que on devrait tous s'intéresser à notre rapport à l'argent. Et également parce que Sébastien a vendu sa boîte plusieurs millions d'euros, voire même plus de 8 chiffres, donc en gros plus de 10 millions d'euros. Et je trouve ça très intéressant d'entendre son point de vue sur le rapport au succès en rapport avec l'argent. C'est aussi l'occasion de vous dire que cette semaine, il n'y aura pas d'épisode d'Histoire de succès classique, puisque je prends des vacances. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et une bonne écoute de cet épisode.
Je tiens à avertir tout le monde, c'est que derrière la colline, il n'y a rien. Vraiment, la colline de « Ah ouais, je veux plus d'argent, je veux devenir riche », en fait, derrière, il n'y a rien. Et effectivement, après, ça crée un leurre. C'est-à-dire que tu es en haut de la colline, donc tout le monde te regarde. Waouh, le gars est arrivé en haut de la colline et il te regarde différemment. Mais en fait, tu fais pas les choses mieux. C'est juste les gens qui te regardent différemment, c'est pas toi. En fait, c'est comme la façon dont tu t'habilles. Tu vois bien que les gens ils te parlent différemment quand t'es en costard que quand t'es habillé pour aller acheter ta baguette le dimanche matin. Le rapport, il est pas le même. Les gens te regardent pas pareil, les filles te regardent pas pareil. Enfin, et donc c'est juste un habillage. Ce n'est pas toi. L'argent, ce n'est pas vous. Enfin, vraiment, c'est un point important en fait.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com. Donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
T'es un peu stressé? Tu me disais que t'étais stressé.
De façon générale?
Non, là.
Ah là?
Pour faire ça.
Oui, c'est marrant parce que c'est le thème, c'est-à-dire que de dire, attends, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va mettre des montants ou pas? Qu'est-ce que je réponds si c'est les montants?
Ah oui, on va mettre un montant.
Tes potes vont écouter et dire, qu'est-ce que t'allais faire ça, là, tu vois?
Ouais.
Et tu te dis, mais pourquoi je viens? Est-ce que c'est pour la fame? Est-ce que c'est pour le... En fait, non, c'est presque plus pour la psychanalyse de moi-même, en mode bon, ça oblige à avancer sur ce sujet, tu vois, bon. Et puis si on le publie pas, on le publie pas,
ouais.
C'est pas grave, tu vois. Et puis et tu m'enverras la facture, comme je dis. En mode, je crois que c'est remboursé par la sécu, si c'est la psychanalyse.
Tu vois. Mais t'as l'impression que t'as besoin d'avancer sur le sujet?
Est-ce que j'ai besoin d'avancer sur le sujet? Ouais, j'ai besoin d'avancer sur le sujet.
Ok.
J'ai besoin d'avancer sur le sujet, c'est un. c'est quelque chose dont on se libère, tu vois. C'est dur de se libérer du rapport à l'argent. C'est comme c'est dur de se libérer du rapport au travail. C'est comme c'est dur de se libérer du rapport à l'amour tel que la société te l'impose. Tu vois, donc tout ça, c'est dur de se libérer de la société.
Sébastien, t'as 44 ans.
J'ai 44 ans depuis 2 semaines.
Bravo, toutes mes félicitations.
Bah écoute, j'espère continuer comme ça.
Je voulais t'inviter dans ce podcast parce que tu fais partie des... J'ai pas beaucoup de gens qui sont très fortunés autour de moi. Je sais pas à quel point t'es très fortuné, mais je sais que t'es très fortuné. Et après, tu vas sans doute me dire, je suis pas très fortuné par rapport à Jeff Bezos. Parce que, en fait, quoi qu'il arrive, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Mmh. Mais en fait, surtout, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir, que tu me racontes un petit peu ton parcours par rapport à l'argent et par rapport à cette boîte que t'as créée. T'es pas devenu fortuné par hasard. Ça t'est pas tombé dans la bouche quand t'étais petit. T'as créé une boîte que t'as fini par vendre et qui t'a, dont cette vente a changé ta vie il y a quelques années de ça. C'était Il y a 4 ans.
Juste avant 40 ans, c'était mon objectif.
Ah, c'était ton objectif en plus.
Je t'ai expliqué.
Tellement intéressant.
D'être libéré du travail. Tu vois le sujet.
On va en parler. Alors. Parce que j'ai pas l'impression que tu te sois libéré du travail.
Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison, pardon.
Oh,
je suis pris la main dans le sac.
Donc tu voyages souvent, t'es assez peu en France. Mmh. Et la fois passée, quand on s'est vu, j'avais l'impression que t'étais dans une folie de travail aussi, tu vois. Et tu me racontais toi-même que tu t'étais vraiment un peu cramé la tête. Mmh. Et là, tu viens d'arriver chez moi, tu te poses dans le canapé et tout. Et en fait, je te vois, tu te poses, tu souffles vraiment comme si t'étais épuisé. Je me suis dit, mais non, Sébastien, que se passe-t-il?
Ouais. Mais je sors du travail d'avant et puis je repars au travail d'après.
Et tu continues à travailler.
Tout à fait.
Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là parce que j'imagine à quel point c'est. Je crois que ça va pas être évident pour tous les gens que je vais interviewer d'une manière générale sur ce podcast. Donc merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu pourrais commencer par me raconter un petit peu quel est en fait, quand je te dis argent, à quoi tu penses? Là, comme ça.
À quoi je pense?
Ouais. Qu'est-ce que ça te fait dire?
Alors là, la réponse, je veux dire la réponse de coach presque, tu vois, c'est de dire que l'argent c'est de l'énergie, c'est l'énergie en puissance, comme le pétrole est de l'énergie en puissance. En fait, pour moi, l'argent c'est une façon de stocker l'énergie que tu peux avoir entre humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une entreprise, un petit artisan qui lance un business, ben, il a peu d'argent, en fait, ben, l'énergie, c'est son poignet, c'est ses mains, c'est ce qu'il veut bien mettre, et il est limité par sa propre énergie. Si cet artisan il décide de lever des sous, en fait, il va récupérer plein de sous, plein d'énergie. Et cette énergie, il va la dépenser. Et là où effectivement, quand tu brûles du pétrole, tu dégages de l'énergie, tu canalises dans un moteur qui te fait avancer, et bien là, cette énergie va lui permettre d'aller, je vais utiliser un mot violent, mais voler de l'énergie ou utiliser l'énergie d'autres gens pour qu'ils travaillent à sa cause. Et aujourd'hui, tu vois, je travaille dans le monde des startups et autres, et je dis, un des rôles du dirigeant, c'est de s'assurer que la boîte a de l'énergie, donc de l'argent. Soit qu'il est allé lever, soit que la boîte en génère suffisamment toute seule pour être autonome, et de canaliser, donc donner une direction à l'entreprise pour que cette énergie qui est consommée, elle aille dans la bonne direction, elle fasse avancer quelque chose. Donc aujourd'hui, l'argent, tel que je le vois comme une ressource dans un jeu vidéo, tu vois, c'est ce qui te permet de consommer cette énergie. Et quand t'en as trop sur ton compte, en fait, c'est comme à StarCraft, quand t'as trop de cristaux, ça veut dire qu'il faut vite que tu fasses des investissements, parce que ça veut dire que si t'en fais rien, ça veut dire que tu vas pas assez vite, tu vois.
Alors rappelons que tu es déjà t'es ingénieur
informaticien,
donc ça c'est ton métier de base, que t'es aussi fan de jeux vidéo, tu viens de le balancer, et en fait que l'une de tes vies après avoir vendu ta boîte, c'est de réinvestir cet argent que tu as gagné dans d'autres boîtes.
Et
c'est ce que tu fais là aujourd'hui. Quand tu viens me dire j'ai un rendez-vous après, j'ai un rendez-vous avant, c'est avec les gens notamment dans lesquels tu as investi.
Les entrepreneurs avec lesquels je travaille, effectivement.
Ok. L'autre question que je pose à tous mes invités, c'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent ?
Alors, tu me l'as dit là, juste avant qu'on lance le podcast, je me suis dit, oulala,
à quoi j'ai pensé. J'ai vu ton visage s'éclairer.
Exactement, et tu sais à quoi j'ai pensé ? J'ai pensé, et c'est un exemple que je dis souvent quand je dis qu'il faut choisir, quand je dis diriger, c'est choisir, choisir, c'est renoncer. Et en fait, j'ai cette image de moi avec une pièce de 10 francs, chez Mohamed l'épicier qui a les bonbons et avec ces 10 francs et ben je dois choisir entre 5 oursons ou 10 frites et 5 bisous, tu vois.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et en fait, cet argent que j'ai, c'est ce qui me donne accès à ce plaisir, en fait. Tu vois, c'est, je crois, et donc ma mère qui me demande soit d'aller acheter un pain ou de la crème fraîche. Et que je peux récupérer la monnaie pour acheter des bonbons, mais en fait, je me rends compte que c'est ce qui me donne accès, mais qui en même temps m'oblige à un choix cornélien entre les oursons ou les bisous et les frites, quoi. Tu vois.
Et tu te souviens ce que t'as acheté ?
Je crois que j'étais plutôt sur la diversité plutôt que de tout claquer dans 5 oursons. Et donc, mon choix, c'était le non-choix, c'était la possibilité d'avoir le plus de choses différentes, quoi. Tu vois. Et là, tu rentres avec le paquet. Je crois que c'est ça mon premier souvenir d'argent. Vraiment, je crois que c'est ça. C'est ce rapport à la boulangerie, la première fois où tout seul, tu prends, t'as des sous et tu dépenses.
Et en grandissant, comment t'as l'impression qu'avec le recul, que ton rapport à l'argent s'est structuré pendant ton enfance et ton adolescence ?
Enfance, pas trop. Donc à part ce rapport-là, donc ça veut donc dire que j'ai été protégé par ce sujet toute mon enfance. Le premier sujet où ça a été un petit peu une question, c'est j'étais dans une école privée où il y avait que des garçons.
Tu étais dans une école de garçons ?
Ouais, une école de garçons. Ouais, tu vois, frère des écoles chrétiennes. On faisait l'appel à la messe tous les lundis matins. Enfin bref, un truc bizarre. Enfin pas bizarre, mais d'un autre temps, on va dire. Quand tu expliques ça aujourd'hui. Et en fait, c'était donc une école remplie de... Bon, ils essayaient de mettre en place de la diversité, mais la diversité, c'était plutôt des fils d'ambassadeurs. Et c'était une école très bourgeoise. Et l'argent était présent notamment dans les habits. Tu vois, c'est-à-dire que on t'évaluait la qualité de tes Reebok Pump ou de tes Nike Air parce que elles valaient un certain montant. Et en fait, c'était le gage de la bonne qualité et de la coolitude. Pareil pour la doudoune chevillon. Et j'ai toujours été surpris, et ça me surprend encore aujourd'hui. On dit l'habit fait pas le moine, mais en fait, mine de rien, il a quand même un impact énorme sur autrui. À quel point finalement ces repères qui sont des repères effectivement de style, parce qu'il y a une dimension de style, mais aussi des repères qui sont liés à l'argent, tu vois. Et quand tu portes du Martin Margiela et qu'il y a le petit trait blanc à l'arrière de tes chaussures ou les 4 traits à l'arrière de ton t-shirt, on sait que t'as payé tes chaussures 700 balles, même si elles sont pas plus designées que quelqu'un d'autre. Et en fait, ce petit détail discret, mais là, il explique que en fait, je me positionne comme étant sans être ostentatoire, mais je le rappelle en fait. Et seuls les vrais savent, et c'est une sorte de communauté qui dit attention, il y a de l'argent. Et ça, c'est là où en fait j'ai été un petit peu. J'ai un peu ce rapport-là. Mais maintenant que j'y pense, il y a aussi pendant ma primaire, où en fait c'était, on avait la chance d'avoir mes parents qui sont pas nés fortunés, mais qui avaient fait le pari.
Ils font quoi ou ils faisaient quoi
Mes parents, mon père était fils de vétérinaire, historien de formation. Il avait essayé l'ENA, mais il n'a pas réussi, il était premier collé. Et ma mère était prof de français, grec, latin, lettres classiques. Et c'était donc cette nouvelle bourgeoisie, slash petite bourgeoisie, en banlieue parisienne, ouest, très, tu vois, et qui cherchait à évoluer dans des sphères qui reconnues, enfin, dans, on va dire, qui nous éduquaient correctement. Correctement, je mets vraiment entre guillemets, parce qu'en fait, toute éducation est correcte, hein, mais bon, c'est par rapport aux standards de l'époque que eux voulaient, en fait. Et en fait, quand j'étais en primaire, je me suis rendu compte que mes parents avaient fait le pari d'acheter une maison qui était un ancien hôtel, qui se sont mis mais vraiment la rate au courbouillon pour l'acheter. Et puis mon père a évolué dans une société, il a été un cadre sup, tu vois, qui gagnait bien sa vie. Mais cette maison était un ancien hôtel, un restaurant, en imposé, avait une stature et donc une stature qui derrière faisait état ou était démonstratif d'une certaine place,
statut, c'est ça,
ouais, d'un statut dont je voyais l'impact que ça avait sur les gens, quoi, tu vois. Même ma mère qui avait une vieille Mercedes, mais c'était une Mercedes, enfin, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est signe extérieur de richesse. Donc là, il y a pas l'argent. On est ado, il n'y a pas trop l'argent, mais en fait, il n'est pas là, mais il est un peu partout, tu vois. Et voilà. Et donc, à part ça, et quelques fois où tu dois sortir et tu te rends compte que tu as besoin d'argent pour aller au bowling ou d'aller au McDo, et où là, tu as un rapport avec tes parents qui te dit je te donne ci ou je te donne ça.
Tes parents ne te filaient pas d'argent de poche?
Alors, s'ils m'en filaient, mais je me souviens même plus quoi des montants. En revanche, arrivé au lycée, moi j'avais mon comme tu as dit, j'étais gamer. Là où l'argent était un facteur limitant pour moi, c'était jouer au jeu. Tu vois, donc, déjà, mes parents voulaient pas de console de jeu, donc j'ai pas une console de jeu. Pareil, donc j'allais au bar pour jouer sur
jeu d'arcade.
Ouais. Des fois, je me faisais attraper par mon père ou ma mère qui m'attrapait par la peau des fesses et me ramenait à la maison.
Ah ouais, c'était vraiment
anti-jeu. Et en fait, pour jouer, t'avais besoin d'argent. Mm. Pareil pour fumer des clopes, tu vois, faire tous les trucs interdits, en fait, il te fallait de l'argent. Et quand j'étais ado, je faisais soit du trafic pas de clopes, mais de bidis pour, tu vois, récupérer des, dans cette école de gens un peu fortunés qui avaient de l'argent de poche avec un pote, ou bien plus tard des CD copiés PlayStation, enfin, tu vois, une façon de s'attribuer de l'argent avant que t'en aies besoin, quoi, tu vois.
D'accord.
Et donc, c'était l'élément qui te permettait d'arriver soit à des choses interdites, soit à des choses inaccessibles, comme s'acheter une guitare, des choses comme ça, où là, tu étais obligé de travailler. Donc là, tu dis, ah, en fait, le travail te donne accès à un volume important d'argent pour avoir accès à tes besoins et tes envies, quoi. Tu vois, c'est comme ça que... Tu vois, vraiment, c'est pas réfléchi ce que je te dis, c'est vraiment en explorant un peu mon cerveau, voilà ce que... Les premiers rapports à l'argent, quoi.
D'accord. Et t'as l'impression que tes parents, ils sont plutôt du genre à dépenser, justement, pour montrer... Parce que tu disais que cet hôtel-là devait leur coûter très cher, et j'imagine, enfin, à un moment donné, il y avait un crédit à rembourser ou un truc comme ça, non?
Alors, ils l'ont pas fait... En fait, ils l'ont fait juste parce qu'on est 5 enfants, et que l'appartement dans lequel on était à l'époque, ça ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'acheter une grande maison. Enfin, d'acheter. Ils pouvaient la louer. Mais en fait, ils ont fait ce pari-là, d'ailleurs, juste un peu avant l'inflation. Donc, c'était un pari intéressant. Mais bon, à l'époque, t'as emprunté à 10%. Donc, c'est hardcore. Et c'était juste parce qu'ils voulaient nous offrir un cadre de vie. Et effectivement, plus tu grandis, plus tu te rends compte que le fait d'avoir évolué dans cet univers-là, bah en fait, derrière, ça a dû coûter énormément d'argent. Et que tu finis par comprendre pourquoi ton père se tue à la tâche pour qu'on puisse tous faire des études. Des fois, c'est des écoles privées. Et en fait, tu comprends que c'est un vrai enjeu. Et que, en fait, mine de rien, c'est pas si accessible que ça. Ça demande beaucoup de travail de donner accès, non pas à un enfant, mais à 5 enfants, à des études supérieures, quoi. Donc, en fait, tu sens qu'il y a eu un vrai investissement sur toi, quoi. Tu vois, sur chacun des enfants.
T'appelles ça un investissement sur toi, c'est intéressant.
Bah oui, parce que en fait, ouais, tu vois.
Tu pourrais après, voir comme un sacrifice.
Après, je sais pas s'ils en ont les retours, tu vois, mais bon. Je sais pas, hein. Une fois que t'as suffisamment à vivre pour toi, tu fais quoi de l'argent qui te reste, tu vois.
Ah bah ça.
T'as pas 5 paires de pieds pour porter 5 fois plus de paires de chaussures, tu vas suivre. Hein, t'as okay. Qu'un seul estomac, enfin, bref. Donc en fait, t'as une nourrie des autres, et les autres qui sont dans la continuité de tes valeurs. Donc,
ah ouais.
Je peux le comprendre.
Ok. Tu fais des études, tu te lances dans des études d'informatique, toi?
Ouais, alors je me lance dans des études d'informatique en sortant de l'école. Alors ce qui est marrant, c'est que...
Tu le fais par passion ou parce que tu alors, dis aussi ça va être un... Ça va être, il y a moyen de gagner de l'argent avec ça.
On sort un peu du sujet, mais en vrai, moi je savais pas quoi faire. Hein. Franchement, j'étais un cancre à l'école, hein. Mais vraiment un cancre. Hein. C'était les cours, c'était de la distraction entre deux récré, quoi, de récré où au lycée t'en profitais pour draguer parce que au lycée là il y avait des filles. J'avais changé, je m'étais fait virer de l'ancien. Moi, j'avais 3 potes qui étaient plus ou moins les guides de l'école. À l'époque, Internet n'existait pas. En tout cas, n'était pas accessible dans cet univers. N'existait pas dans cet univers.
On vous rappelle, c'était avant les années 2000, les enfants.
Exactement,
c'était
dans les années 90. C'était au début des années 90. Et moi, je comprenais pas. Moi, j'étais accro à mon écran. Je comprenais pas pourquoi tout le monde n'était pas accro à l'écran, quoi. Tu vois. Et moi, j'étais bien derrière un écran. Tu vois. C'était vraiment. Puis j'avais mes potes geek. Même si j'étais un des gars branchés de l'école, j'avais cette ambivalence du côté geek. Et ma copine de l'époque, une fille assez mignonne, qui est allée faire salon de l'étudiant, s'était fait alpaguer par des mecs qui se sont dit oulala, il y en a une mignonne, on va essayer de la recruter. Et elle a dit ah oui, j'ai pris pour mon copain. Elle m'a donné un flyer d'une école et en fait je devrais la remercier mais j'ai jamais réussi à la retrouver sur Facebook parce qu'elle a un nom trop commun et j'ai fait cette école et j'ai fait cette école juste par passion quand j'étais allé la visiter bah c'était moi je pensais que j'allais faire des jeux vidéo tu vois c'était l'intelligence artificielle et les sciences cognitives tu vois des choses qui en fait parle aujourd'hui et qui est dans le vocabulaire de tout le monde mais qui était dans le vocabulaire de personne à l'époque et j'ai fait ça véritablement par passion et c'était un univers où en fait tu plonges dans la matrice et tu touches l'internet et tu le construis parce que il y a vraiment rien c'est-à-dire pour toute une école ils sont super fiers de t'annoncer qu'ils ont une LS donc c'est une ligne spécialisée qui monte à 1 méga tu vois. Et on est 500 derrière le méga, tu vois. Donc, bref. Et donc, je fais ça vraiment par passion avant que l'Internet arrive. Et tout le monde qui me dit, mais attends, tu vas arriver là-bas, ce sera en 96. Ouais, il restera 4 ans où on aura besoin d'informaticiens pour gérer le bug de l'an 2000. Mais après, il n'y a pas de taf dans l'informatique. C'est fini la courbe de l'informatique Eldorado. Tu vois ce que je veux dire?
Les visionnaires.
Les visionnaires. Donc, voilà. Et moi, je dis, mais tu sais, je le fais pas parce que j'ai des plans sur la comète. Je le fais juste parce que c'est ce qui me fait kiffer au quotidien, quoi. Tu vois.
T'avais trouvé ta passion, quoi.
Ouais, j'avais trouvé ma passion. Mmh. Et le code, j'ai trouvé toujours ça magique parce que pour moi, c'est de la poésie. Tu crées des choses qui vivent toutes seules. Enfin, tu vois, c'est une créature éthérée. Enfin, tu vois, donc vraiment, j'étais content de faire ces études. Ça a été génial. Et effectivement, pendant mes études, il y a commencé à avoir la première bulle de l'Internet avant qu'elle éclate. Et là, il y a un truc bizarre, c'est que ta passion devient un truc où tout le monde la veut et on t'affiche des prix délirants, quoi. Tu vois. L'école valait assez cher et je sais plus d'ailleurs combien ça valait. Je crois que ça valait 7 000, non pas 7 000, peut-être 6 000 euros, 5 000 euros. Ça valait 5 000 euros à l'époque. C'était beaucoup. Et donc, je crois que c'est donc 35 000 francs, comme ça. Et tu te retrouves, t'as un savoir. T'es un des premiers à savoir coder, côté serveur, faire des sites, faire des applications, sécuriser des réseaux. Et en fait, il y a toute la France qui a besoin d'aller là-dessus. Et t'as des gens qui viennent te voir en disant « Est-ce que tu veux pas former des gens ?» Donc tu te retrouves à être formateur, t'as même pas 19 ans, 20 ans, avec des gens qui sont des fois des patrons de la sécurité chez Thales, enfin tu vois, et t'es là, tu te dis « Mince, le costard est beaucoup trop grand pour moi. » D'ailleurs, il était trop grand pour moi, aussi physiquement. Et on te rémunère un truc genre 2000 francs par jour. C'est comme si aujourd'hui on te rémunérait 1500 euros par jour alors que t'es ado, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, la vache, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je suis en train de faire je fais des études qui en fait sont au cœur d'une économie qui est en train de naître. Et je me suis retrouvé pendant mes études à faire une activité de un peu commercial, c'est-à-dire je vendais la main-d'œuvre estudiantine, donc j'avais fait un petit labo. Il y avait un labo qui s'était créé dont je faisais partie et je monétisais la main-d'œuvre estudiantine pour des projets de R&D digitaux. Et en fait, les gars étaient sponsorisés par, à l'époque, ça s'appelait l'Envar, mais c'est donc la BPI. Et en fait, il y avait des développements qui étaient pris en charge par la BPI, c'était de la recherche et de l'innovation. Et c'était encore plus vertueux quand c'était fait avec des étudiants qui étaient dans l'univers du travail, qui arrivaient dans le monde du travail.
T'avais monté ça au sein de l'école ?
Au sein de l'école, oui, tout à fait.
Et t'en avais fait un business ?
J'avais fait un business, oui, tout à fait. Un business.
Déjà, rien que ça, tu vois, moi, ça, j'ai des yeux comme ça.
Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais je ne me rends pas compte. Bah non, mais parce que, en vrai, bon, bah, je me retrouvais. Déjà, je me rendais compte à ce moment-là que ton savoir, il se monétisait parce qu'on me faisait faire des cours. Tu vois, je bossais 4 jours, je gagnais l'équivalent de 8000 francs. Donc, à donner des cours à des gens. Tu vois, donc, tu vois, bon, c'était pas sans stress, hein, c'était pas, il y avait pas de coup, mais donc, tout de suite, t'as accès à une certaine richesse, donc une certaine autonomie. Très vite, je me suis retrouvé à payer moi-même mes études, tu vois, et j'ai dit à mon père, vas-y, ça sert à rien, donc au bout de la deuxième ou troisième année, je dis, écoute, tu payes plus, je paye moi.
C'est intéressant, ça.
Ouais, c'est intéressant
faire. Je préfère couper le, enfin pas couper le cordon, mais en tout cas j'ai pas besoin. C'est moi qui vais prendre.
Alors c'est marrant parce que c'est vraiment pas le côté couper le cordon. C'est juste le côté. C'est quand même. Si j'en ai pas besoin, pourquoi tu me donnerais cet argent en fait? Tu vas suivre.
Intéressant.
Et c'est pas une question de je vais être tout seul parce que j'habitais encore chez mes parents. Enfin, tu vois, pour tout te dire, j'en profitais et par confort et plus par la peur de quitter le foyer que véritablement le fait d'économiser ou autre. Tu vois, donc bon, il y a ça. Et donc quand je crée ce labo, bah, en fait, ça faisait quand même pas mal de chiffre d'affaires. Et quand j'ai décidé, quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de j'avais un ensemble de potes qui avaient un projet. Je me souviens de méga cybercafé qu'on devait lancer, que finalement on a jamais réussi à lancer parce que la bulle a éclaté, on n'a jamais levé de sous.
Les années 2000.
Exactement. Et donc on l'a juste vendu notre propre main d'œuvre. Et le patron de l'école m'a dit à l'époque, bah, écoute Sébastien, tu veux pas rester, tu vois, on te salarie et tout, parce que bah lui il regardait le PNL, donc la différence entre ce qu'on gagnait et ce qu'on dépensait, il voyait c'était très rentable. Il dit.
Donc tout ça c'était pour l'école, hein, c'était pas pour ta pomme.
C'était fait à travers l'école. Ah si ouais. Si, moi j'étais, je touchais le fruit de mon travail, donc okay, j'étais rémunéré par l'école parce qu'à l'école je dis écoute, on vend ça 100 000, l'étudiant on lui finance ses études. Donc, tu vois, par exemple, un étudiant, tu finançais une année à 5000 euros et il y en avait 5 qui avaient travaillé dessus. Donc, à 5000 euros, ça fait 25 000. Il reste 75 000. L'école, elle en prend 30 et moi, j'en prends 20. Et puis, voilà, quoi. Tu vois, c'était comme ça que ça marchait, quoi. Et il en reste encore, je sais plus combien.
Mais tu comprends que de mon point de vue, t'es déjà dans une perspective de business. J'ai jamais eu ça, moi, par exemple. Tu vois, pour moi, c'était cool de faire les choses.
Oui, c'est vrai que j'ai une perspective où je me dis, on vend quelque chose, enfin, on fait quelque chose et en fait, ça a une valeur en face. Mm. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, tu ne te vends pas toi, tu vends un développeur, tu vends un expert de base de données. En fait, tu ne vends pas l'individu que tu es, tu vends le masque que tu revêtis quand tu fais le job. Donc en fait, dessus, il n'y a pas marqué « je vends Sébastien qui vaut tant ». Tu dis « je vends un architecte designer de logiciel qui vaut tant parce qu'il va bosser tant de jours ». Donc tu fais une matrice, tu vois.
C'est plus simple pour toi de te vendre comme ça, c'est-à-dire justement de ne pas te vendre ?
Ah bah oui, se vendre soi-même, c'est quelque chose qui est très très difficile à faire. C'est pour ça que tout le monde a des agents. Tout le monde a des agents. Je me suis même posé la question en ce moment de monter une agence pour les techs.
Ah oui.
Parce que les techs, ils ont beaucoup de valeur dans les mains. Aux États-Unis, c'est des stars, ils sont payés une somme folle. Et en France, en fait, s'ils veulent évoluer et gagner plus cher, il faut qu'ils deviennent manager. Donc en fait, il faut qu'ils fassent un truc qu'ils ne savent pas faire. En plus, tu vois, manager, c'est tu travailles avec les gens, pas avec l'écran. Et en fait c'était ça, c'était un peu ça ma valeur.
Okay.
De défendre la valeur technique, en fait. Bon, bah, je suis planté à plein d'égards, hein. Des fois j'ai sous-vendu, des fois j'ai rarement survendu, tu n'as jamais l'impression de vraiment survendre, mais et donc c'est ça ce que j'ai développé pendant cette période. Et quand on a voulu faire notre boîte et que ça n'a pas marché, ben en fait on s'est transformé plus ou moins en une société de services, et je vendais ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire la main d'œuvre qu'on avait pour soit de faire la formation, soit de développer des logiciels, bref, une sorte de SS2I, une agence pour faire ça.
La boîte que tu vas finir par vendre
Celle-là, elle a duré 2 ans.
Okay.
Et après j'ai repris autre boîte. Avec, parce qu'en fait, moi j'avais monté une boîte qui s'arrêtait, donc que j'ai quitté 2 ans plus tard, et un de mes potes de promo avait aussi monté une boîte avec des associés, et cette boîte, les associés sont partis, et moi je les rejoins, on a repris la boîte ensemble, voilà, en 2003, et l'histoire s'est terminée en 2017, tu vois, donc 14 ans.
Presque 15 ans, quoi.
Allez, sans lever de sous. On ne va pas lever dessous.
Mais autofinancé.
Autofinancé, ouais, totalement.
C'est hyper intéressant.
C'est aujourd'hui, il y a quoi, comment t'as fait ? Attends. Bah écoute, c'est simple, on ne me donnait pas d'argent. Parce qu'à l'époque, tu allais voir, j'ai besoin de lever des sous. Mais non, Internet, c'était un marché de niche.
Ouais, 2003, quand vous reprenez cette boîte, pour expliquer un petit peu plus jeune, mais en gros, la bulle a éclaté et c'est vraiment l'Internet, c'est bon, quoi. Il n'y a plus personne qui veut mettre dessous de
nous. Exactement. Et donc, il y a des phrases qui aujourd'hui paraissent bizarres, mais Internet, c'est effectivement un marché de niche.
C'est une mode.
Un sous-média, comme disait Moujotte de TF1.
Un sous-média.
Les boîtes du Twitter ne travaillaient pas avec les startups. Que le cloud, c'était mal. Je recevais encore en 2008 des commandes par fax. Enfin bref, tu vois, les gens se rendent pas compte. Et puis si tu voulais louer des bureaux, il fallait 1 an de bilan, parce que le coworking est un concept qui n'existait pas. Et si tu voulais des mails avec ton propre nom de domaine, il fallait que tu installes un serveur dans tes bureaux, quoi. Et t'avais pas les mails sur ton téléphone, et puis ta boîte avait pas les sous pour acheter des ordinateurs portables. Donc t'avais les mails que au bureau ou chez toi si t'arrivais à configurer le truc.
C'était il y a fort longtemps. Hein.
Voilà,
et en même temps, pas tant. Tu vois, c'est ça qui est ouf. Ça a été vraiment à tout
niveau. Non, mais. Et ce qui est marrant, pour revenir sur le sujet de l'argent, parce que je me rends compte là, en disant, c'est que. Mais en fait, ce que tu vends, c'est toujours de la main-d'œuvre. Donc en fait, t'es là, t'additionnes des fichiers Excel. Et tu fais des plans de projet, et donc mon rapport à l'argent tout de suite il est je vous ai mis 5 jours à 800 €, 7 jours à 1002, enfin tu vois, c'est irréel, parce que c'est pas de l'argent, tu comptes pas les liasses de billets. C'est que des virements, des trucs comme ça. Donc en fait, je manipule, et je pense que j'aurais manipulé plus d'argent dans toute ma vie pendant cette période-là, en tant que en B2B,
en tant que gestionnaire,
tu vois, en tant que gestionnaire de ton entreprise, un peu comme un jeu vidéo, quoi, tu vois, comme un SimCity de l'entreprise. Et encore, moi, je suis plutôt sur l'acquisition, je ne suis pas sur la gestion. C'est toujours été mon associé, plutôt DAF. Et à la fin, c'est ça qui est paradoxal, mais c'est jusqu'à, je sais pas moi, 31 ans, je me payais 2000 euros brut ou net, hein, je sais plus, entre 1005 et 2005 net. Oups, ça, j'ai rajouté 1000 euros à peu près pendant des années, quoi. Et je me suis augmenté, je me souviens, à 3005, un truc comme ça, passé à 30 ans, je crois, parce que on avait acheté une maison avec mon ex-femme en banlieue, une petite maison en banlieue.
Et que tu avais besoin de rallonger pour ton crédit.
Et j'avais besoin de rallonger pour mon crédit, parce que sinon, c'était pas viable. D'ailleurs, le crédit, j'ai eu du mal à l'avoir, parce que comme j'étais entrepreneur et que ma boîte... Enfin, bref. Et donc, mais en même temps, c'est vraiment elle qui m'a forcé. Je dis, mais pourquoi tu veux qu'on prenne plus? Parce que ce que je vais prendre plus, je vais l'épargner, et je vais épargner dans un truc qui va me rapporter moins que le potentiel de ma boîte, en fait. Tu vois, je me disais juste...
Ça, c'est très intéressant. Parlons-en. Parce que tu t'es donc sous-payé pendant des années. Parce qu'en fait, quand ta boîte, elle faisait combien de chiffres à l'époque, jusqu'à tes 31 ans, ta boîte?
Bah, mes 31 ans, je sais plus combien elle faisait à 31 ans, mais elle faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires.
T'avais combien de salariés?
À 30 ans, peut-être j'en avais une vingtaine, un truc comme ça. C'est pas non plus énorme, tu vois.
Ouais, mais c'était déjà une PME, quoi.
Ouais, c'était une PME, ouais. Et on était rentable, et tu vois, mais on réinvestissait tout ce qu'on gagnait pour pouvoir financer notre croissance. Donc en fait, voire même on se payait virtuellement plus, mais on se les versait pas. Tu vois, c'est ce qu'on appelle concours en associé, c'est-à-dire que tu te dis, en fait, on te verse, mais on te dit, je sais pas moi, t'as gagné 60 000 euros. Mais on te verse que 12 fois 2000 euros, 24 000, et donc il reste 36 sur le compte. Et parce que, en fait, on ne sort pas cette trésorerie parce qu'on a besoin pour embaucher, on a besoin pour. Tu vois.
Donc c'était un peu. Vous étiez aussi dans une course à la croissance. Parce
ouais,
que...
tu snowball ton entreprise, et donc tout ce que tu sors, moi j'avais appris.
Snowball, pour expliquer aux gens, c'est juste. Bah,
l'effet boule de neige, en fait. Tu remets les sous dedans pour que la boule soit plus grosse, et donc qu'elle capte encore plus de neige. Et parce que. Et moi, en fait, quelque chose qu'on m'a pas dit, hein, mais moi, j'ai d'éducation, j'utilise le terme éducation catholique, parce que j'ai été dans une école catho, que effectivement la culture de ma famille c'est une culture catholique, et en vrai, le rapport à l'argent catholique, il est un peu il est tabou. Il est tabou pour soi. Et il n'est pas du tout tabou pour le projet. Donc en fait, parler de l'argent dans l'entreprise, c'est pas vraiment parler de l'argent. Tu vois, c'est plus parler... moi, j'ai toujours vu ça comme un high score. Tu vois, je dis, le chiffre d'affaires, c'est un high score. Ouais. Tu vois, et puis je te dis, tiens, Fabrice, vas-y, t'en es où sur Mademoiselle? Tu fais combien de chiffre d'affaires? Tu vois, tu m'as posé la question, ça fait combien de chiffre d'affaires? Ah ouais, c'est le high score à ce moment-là, tu vois. Et moi, j'ai toujours vu ça comme un high score. Et puis, effectivement, j'ai toujours eu... j'ai un vrai esprit de compétition. Et donc, tu fais comparaison de Kiki, mais tu fais comparaison de Kiki de high score d'entreprise, tu vois. Pas forcément de la personne.
De personne
le
personne.
Worth, tu vois, le wealth, pardon, de la personne, quoi. Combien il vaut, tu vois. Ça me perturbait. Alors qu'en revanche, le chiffre d'affaires, encore plus le résultat, eh bien, ça te donnait... un indicatif de la performance de cet être éthéré qui est l'entreprise, quoi, tu vois, donc le monstre, l'avatar que t'as créé. Et donc c'est confort de parler d'argent dans le cadre de l'entreprise, c'est moins confort de l'avoir pour soi. Et donc moi-même, j'étais mal à l'aise de gagner plus, et j'ai toujours fait en sorte que de pas être le plus gros salaire de la boîte. Toujours gagner moins que certains des gars qui étaient plus performants chez moi. Quoi.
Alors pourquoi? Parce que j'imagine que...
Bah parce que, en fait, on était... le pari, il était sur... déjà, c'était d'un point de vue management. C'est-à-dire que tu peux dire... tu vois, moi, j'ai toujours considéré que qu'en fait, diriger, ça doit être un poste austère. Un petit peu, une forme d'austérité. J'ai toujours rêvé d'un président de la République qui arrive et qui dit bon, moi j'utilise mon salaire par deux et ceux de tout le monde par deux, et juste pour dire Voilà, c'est austérité. Alors, c'est complètement débile, hein, je sais pas, mais ou en tout cas juste ce dont on a besoin, tu vois. Et moi, j'étais là, je prends juste ce dont j'ai besoin et pas plus, et puis voilà. Et puis de toute façon, je travaillais tellement que j'ai pas le temps de le dépenser. Et puis en fait, et résultat, j'ai pas l'impression de, tu vois, de profiter du truc, tu vois. Donc c'est vraiment ce côté un peu cato, tu vois, de dire
d'austérité, quoi.
D'austérité, exactement.
Comme
c'est
tu dis.
Côté cato d'austérité, quoi.
C'est très protestant en plus. Il y a vraiment un côté. Il faut pas que tu profites trop de la vie, sinon.
Ouais, exactement. Oui.
Ça va te retomber dessus à un moment donné, quoi.
Bien sûr. bien sûr, ouais, tout à fait. Et donc jusqu'à 30 ans vraiment austérité, quoi. Et puis il y a un moment,
qu'est-ce qui t'a fait, en dehors de ce crédit, qu'est-ce qui t'a fait changer? Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit faut peut-être qu'à un moment donné que je me paye moi aussi de mon côté, quoi?
Non, ça a pas été comme ça.
Okay.
Ça a été plutôt l'environnement. Pourquoi je dis l'environnement? Parce que en fait, quand la boîte commence à grossir, tu vois, c'est des millions, voire dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, t'arrives dans ces zones-là. Et en fait, quand tu as de la bonne gestion de ton entreprise, tu te retrouves avec du résultat. Beaucoup de résultats.
Alors, le résultat, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'on n'a pas forcément des chefs d'entreprise et des comptables.
Attention, jingle, le moment explication de Fabrice de ce que c'est que le résultat.
Oula, alors. C'est ce qui te reste une fois que tu as ton chiffre d'affaires et en fait qu'on enlève toutes les charges de la boîte.
Exactement.
Voilà.
Tout à fait.
En gros, c'est ce que la boîte génère comme cash,
voilà,
à la fin.
À la fin.
De l'exercice.
Exactement. Et qui n'est pas la même chose que la trésorerie, parce que tu peux faire du bon résultat, mais des fois.
Trésorerie qui est l'argent disponible sur ton compte en banque,
exactement,
pour le coup.
Et en fait, avec l'effet boule de neige, il y a un moment, il se passe un truc un peu bizarre. C'est que y a trop d'argent. Et donc, tu te dis, on va faire des primes aux employés, des trucs comme ça, et puis t'en fais, mais tu vas pas faire des primes qui sont complètement déconnantes, quoi, parce que là, c'est cool, parce que c'est le printemps et on ramasse, mais il y aura peut-être un hiver de demain, et si tu les as habitués à faire des trop grosses primes, ça n'a pas de sens, donc bref. Et donc, t'arrives et tu te rends compte que t'as le bas de la ligne, la dernière ligne, il y a des trucs vachement positifs, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et donc, tu commences à te les donner. Et donc, c'est là où tu te dis, t'es là, t'es super content, tu t'es monté limite à 3 500 € par mois, c'était déjà énorme, et tu te fais des restos de temps en temps, l'achat, puis t'as un peu les notes de frais. Et puis à la fin de l'année, pam, t'as 100 000 qui tombent. Qu'est-ce que je fais de cet argent? T'en occupes pas, ça traîne sur ton compte. Tu t'appelles, monsieur Lucas, faudrait que. Très bien.
Ton banquier qui t'appelle, qui te.
Ouais, tu te dis, faudrait faire des placements ci, placements ça, et t'as pas confiance. De toute façon, tu comprends pas. Toi, t'es pas un mec d'argent, et lui comprend pas que tu sois pas un mec d'argent. Comment tu peux ne pas être un mec d'argent et avoir de l'argent sur ton compte, tu vois? Parce que moi, j'étais un informaticien qui vendait effectivement des lignes.
C'est fou à quel point, mais c'est fou à quel point t'as vraiment une, comme tu disais tout à l'heure, une distinction entre l'idée d'avoir monté ta boîte et d'en faire un business depuis que t'es étudiant, quoi, et d'être incapable à ce point-là de gérer ton argent perso et de te dire, je sais pas quoi faire, et pour
bien
moi, il faut pas y toucher, quoi.
Exactement.
Ok.
Et tu vois, là, j'ai 32, 33, 34, tu vois. Et ces années-là, je dis, attends, c'est cool et tout. Je commence un peu à partir en vacances, puis j'ai un pote qui avait vendu sa boîte, il me dit, viens, on part en vacances et tout. 4 jours, ok, je pars 4 jours, ça faisait longtemps que j'étais pas parti comme ça, tu vois, parce que j'étais parti juste pour mon voyage de noces avant mon divorce, tu vois. Et où j'avais un peu, mais ça avait été financé par les cadeaux de mariage, en fait, tu vois. Donc, et pour la première fois, je prends une chambre d'hôtel à 300 €, j'ai l'impression de, ces trucs de tu vois, génial.
Et austérité, toujours.
Ah non, mais ouais, mais 300 €, c'était pas austère du tout. Tu vois, c'était 400 €. Le côté austérité,
genre. Vient d'austérité, justement.
J'ai culpabilité de faire ça, quoi. Mmh. Tu vois. Et en fait.
Et cet argent, tu l'as. Et tu l'as gagné.
Oui,
l'as gagné parce que t'as travaillé.
Et puis c'est sur mon compte et ça tient. Et donc.
Comme un taré.
Oui, et donc, même si j'ai pas l'impression, parce que fais un travail que t'aimes, t'as l'impression de jamais avoir travaillé. Mais. Et en fait, après, une année se passe. Et en fait, l'année d'après, c'est pareil, tu récupères 100 000, voire même un peu plus. Et t'es là, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de cet argent, en fait, tu vois? Voilà. Voilà. Et puis en fait, j'ai gardé
ça t'encombre.
Plusieurs centaines. Ben oui,
c'est pas quoi en faire
l'argent. C'est encombrant. Et puis surtout, je continue à travailler.
Pourquoi donc, tu trouves que c'est encombrant l'argent à l'époque?
Ben parce que tu sais, par exemple, tu le prends dans l'univers de l'entreprise, tu dis si j'ai trop de cash, tiens, c'est un problème et tout. Et en fait, de ton côté, il y a des sous qui sont en plusieurs centaines de milliers d'euros que tu n'as pas, auxquels tu n'as pas touché pendant 3 ans, 4 ans. Et tout le monde te dira, mais t'aurais pu acheter un appart. C'est fatigant.
Ouais, la flemme.
C'est fatigant, c'est la flemme, tu vois.
T'as pas d'énergie pour ça.
Ouais, t'as pas d'énergie. Puis en fait, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu vois, c'est pas. Alors oui, il y a plein de trucs à faire et tout. Bon. Et là, je me suis dit, ah, je vais acheter un appartement. Parce que tout le monde dit, il faut acheter un appartement. Je peux acheter un appartement. Et puis, ça prend du temps. Et puis, tu sais pas quoi faire. Et puis, appartement acheté tout seul. Parce que entre-temps, j'avais divorcé. Et c'est marrant parce que 5 ans avant, quand je suis marié avec mon ex-femme, je gagne moins et elle me demande de m'augmenter. Et d'ailleurs, quand on divorce, je pourrais presque demander.
Oui, elle gagnait plus d'argent que toi pour le coup.
Ouais, et j'aurais presque pu demander une pension. Tu vois, enfin bref, je sais pas si je tirais un peu le trait, pied de nez, tu vois. Mm. Et où là, après, bon, bah, tu te retrouves avec tout cet argent, tu sais pas trop quoi en faire. Et l'appartement, l'immobilier, ça me. Tu vois, moi, quand j'avais acheté une maison avec mon ex-femme qu'on a revendue après, bah, en fait, tu sais pas quoi en faire. Tu vois, tu vas racheter une maison, mais une maison tout seul, ça n'a pas de sens, un appartement tout seul. En fait, moi, bon, l'achat, c'est toujours genre un plan de couple.
Ensemble,
quoi, tu vois. Bon, et donc, non, j'en fais rien. Si, j'ai à ce moment-là, d'ailleurs, avant même de gagner les sous à travers l'entreprise, quand j'avais vendu ma maison, je me souviens. J'avais tout mon capital de ce que j'avais récupéré. J'ai un peu moins de 100 000 euros, un truc comme ça. Et il y avait un mec qui était venu me voir, qui avait lancé un site d'adoption. Quand je dis adoption, c'est-à-dire de dating. Mmh. Et qui est dans le cadre du travail et qui cartonnait. Il venait de lancer ça. Et j'ai dit, bah, en fait, faut que tu fasses des investissements sur des serveurs et tout. C'était le métier qu'on faisait. Il faudrait mettre 100 000 balles. Tu vois, un petit, moi, j'ai pas les 100 000 balles pour gérer cette croissance et tout. Et je dis, bah, moi, si tu veux, je te les donne. Enfin, je te les donne. Genre, j'étais prêt à mettre les sous de ma maison de divorcé, tu vois, pour l'aider à faire ce projet-là. Tu vois. Donc, pour moi, c'était, viens, prends cette énergie que j'ai, moi. Et en fait, il me s'est dit, mais t'es qui tu vois, je vais pas prendre tes sous, tu vois, t'es pas un business angel. Mais si, je peux t'aider et tout. Et il a pas voulu, j'aurais dû, hein, parce que c'était une super affaire. Et en fait, plutôt que de mettre cet argent dans quelque chose d'inerte, qui était l'immobilier et autres, et ben en fait, je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser. Comme quand j'étais jeune, je disais, tiens, cet argent il te permettait d'aller au bowling. Bah là, c'est dans des proportions plus élevées, mais je me suis dit, tiens, je vais le mettre pour vivre des expériences et rencontrer des gens. Et donc, j'ai commencé à investir cet argent dans des projets. Dans des projets d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui finalement avaient besoin de ces sous et où je dis, ben, moi, je vais gagner comme ça et j'aurais bien aimé que quelqu'un m'éclaire et me donne cette énergie. Et donc j'ai commencé à investir dans des projets qui n'étaient pas des projets immobiliers, quoi. Voilà.
D'accord.
Et donc, ça m'a... Tu vois, ça m'a... En fait, je me débarrassais un peu de cet argent encombrant. Et il servait. Alors, je l'ai fait très mal, hein, parce que normalement, un investisseur, il le fait vraiment avec la notion de l'argent. Alors que moi, c'était plutôt du genre, bah viens, je vais t'aider, quoi. Tu vois. Donc
c'est
comme
c'est
ça
pas très mal.
Ça devenir business angel. Pardon.
C'est pas pourquoi tu dis très mal. C'est juste ta façon à toi de.
Alors quand je dis très mal, c'est par rapport à la performance. Parce que si tu joues le jeu de l'argent, en fait, c'est quoi tes conditions, c'est quoi tes multiples, c'est quoi tes tu vois. Et donc on est dans un jeu d'argent. Alors que moi non, j'étais dans un. Moi j'étais un homme de projet. J'étais pas un homme d'argent. Je suis pas un.
C'était une façon comme une autre.
Je suis pas un financier investisseur. Je suis un amateur de l'entrepreneur qui finance.
Donc pour moi, c'est pas très mal. C'est très bien. C'est par rapport à ton objectif à toi qui était de te créer des expériences et de rencontrer des gens.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est marrant parce que autant, bah, à mon entreprise, tu vois, j'ai eu ce projet pendant quasiment 14 ans. Et en fait, je me suis retrouvé donc à investir cet argent. Et le fait d'investir cet argent, ben en fait, c'était un peu, c'est un peu comme quand t'es installé dans un couple et que ben t'as une aventure à côté. Et en fait, cette aventure, elle t'aère l'esprit, mais elle te permet aussi de te rendre compte de la chance de ce que tu as en interne chez toi, dans ta boîte. Et de la performance de ta boîte. En fait, tu vois, ça te donne un point de repère, parce que moi, j'avais connu qu'une aventure quasiment, tu vois. Tu étais celle de mon entreprise. Et les chiffres qui s'étaient associés, donc je voyais à quel point, bah, on avait un beau bébé, en fait, tu vois. Et surtout, je reprenais du plaisir. Donc, le fait d'avoir dépensé cet argent m'a fait rencontrer des gens formidables, participer à des projets hyper intéressants. Et en même temps, ça m'a enrichi. Je marque un temps pour dire, voilà, enrichi en termes d'expérience humaine.
Humainement.
Exactement, en termes d'expérience humaine, parce que je l'ai dépensé, mais j'ai vécu des expériences. Alors, peut-être que je retrouverai pas les multiples d'argent que je... Tu vois, j'ai pas mis, quand j'ai mis 100, est-ce que je récupérerai 300, 400, 500 ou même 0, parce que c'est arrivé, je récupère 0. C'est un risque, mais en fait, pour moi, si tu en vis l'expérience, et ben en fait, tu vois, c'est comme quand tu vas jouer au casino, tu vas soit pour gagner et c'est là t'as perdu, soit tu vas pour jouer et quand tu joues et tu prends plaisir à jouer, ben de toute façon t'as gagné. Après que tu ressortes à 0 avec ou avec 500, t'as passé une bonne soirée en fait. C'est important, c'est de passer une bonne soirée. C'est comme ça que je l'ai fait. On se perd un peu sur l'entrepreneuriat, mais...
Non, mais c'est intéressant parce que tu parles quand même d'argent, tu vois, tu parles quand même de ta notion d'argent, et je crois que... mais on va passer à la suite de ton aventure et à la vente de ta boîte. À quel moment tu décides, j'imagine que t'es pas tout seul, t'es avec des associés, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ok, c'est le moment de céder?
En fait, quand tu te rends compte de la valeur... Je dis la valeur de ta boîte. Quand je dis la valeur, c'est vraiment la valeur en puissance, tu vois. C'est la valeur pour les gens, tu vois, l'argent, la valeur de quelque chose, elle est donnée par le collectif, en fait. Et donc, tu te rends compte de la valeur de cette boîte, qu'effectivement, elle t'enrichit un peu chaque année. Et tu te rends compte que tu as tout ton patrimoine dans la boîte. Donc c'est un danger en fait, parce qu'en fait cette snowball que tu poussais, ben en fait elle t'a embarqué et tu peux pas en sortir aussi facilement de ça, parce que t'as un engagement avec les gens, t'as un engagement avec tes clients, t'as un engagement avec ton associé, et donc t'es engagé et en fait ton patrimoine il est directement lié à ces engagements. Et quand t'as eu ça pendant 14 ans, t'as pas trop de fenêtres de liquidité, tu vois. Quand aujourd'hui une start-up elle lève, ben le fonds qui a mis des sous, il dit je récupère mes sous dans 5 ans, 7 ans maximum, tu vois, sauf certains fonds. Donc en fait, tu te dis, mais attends, si je veux changer de vie, je suis obligé de me déconnecter à la fois de mon patrimoine et ben, je dois me déconnecter de l'engagement que tu prends auprès des gens, mais aussi du patrimoine. Et en fait, j'ai tout mis dans cette boîte pendant 14 ans, quoi. Tu vois, des années de vie, des années de non-salaire que j'ai mis, j'ai bargain, tu vois, j'ai mis dans une sorte de mono-bitcoin qui est ma boîte, tu vois.
Ouais.
Effectivement, elle vaut beaucoup de valeur, mais elle n'a pas de liquidité, je peux pas dire, hop, je pars et je sors, en fait, tu vois.
Oui, tu peux pas faire en sorte que la boîte te rachète.
Si c'est possible, mais c'est pas facile en fait. C'est, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, quelle valeur tu l'en donnes, tu vois. Oui. Tu peux dire, attends, s'il va racheter mes parts, ouais, mais il va te proposer un prix qui est pas le prix du marché, donc t'es obligé de demander au marché. Enfin, tu vois, donc bref, c'est un élément un peu compliqué. Et en fait, il y a eu une fenêtre où on faisait de l'hébergement et du DevOps. Donc pour ceux qui connaissent mieux, mais pour les autres, en fait, on vend une sorte de cloud. Et là, on a l'arrivée des gros clouds américains qui débarquent. Et donc c'est une crise, et la crise c'est à la fois un risque et une opportunité. Et en fait, on est quand même en bout de course et on profite de cette fenêtre de tir pour dire bon bah on va interroger le marché. Et nos concurrents avaient lancé une politique de consolidation et nous on était le plus gros des petits, et s'il y en a un des deux qui nous rachetait, c'était bien. Et donc en fait, on s'est fait racheter par un de nos concurrents, enfin un des deux même. Plusieurs, et c'était plusieurs sur le marché. Et on a vendu à un de nos concurrents. Tu vois. Et là, moi, ça a été un élément un peu... C'est quelque chose que je redoutais énormément parce que j'étais engagé, j'ai une de mes clients, une de mes employés. J'ai appelé quasiment tous mes clients. Et en fait, quand on... Déjà, moi, je pensais que, tu vois, j'étais coupable. Et en fait,
on revient à la
culpabilité, bien sûr. J'étais coupable, j'ai l'impression de partir avec la caisse, tu vois. C'était vraiment ça. Et il y a un de mes employés qui était un de nos collaborateurs qui était chez nous depuis 4 ans et qui avant était chez le concurrent qui nous rachète.
Ok.
On en avait deux. Et je me souviens de les convoquer, de leur dire bon, ben voilà, je tenais à vous dire que voilà, on se fait racheter. Là. Et là, il se passe un truc et je te remercie s'il écoute. Et il me dit. Bravo, c'est beau ce que vous avez fait et tout, c'est génial, merci. Oh, oh là là, si j'avais su plus tôt, tu vois. Parce que, et effectivement, bah, en fait, je me suis rendu compte que personne ne m'en voulait. Tu sais, j'avais vraiment l'impression, et j'ai continué alors que j'étais libéré du jour au lendemain, hein, j'étais pas obligé de travailler, en plus, j'avais demandé à pouvoir être libéré du jour au lendemain. Parce que je voulais investir dans. Accélérer mon investissement dans les startups, tu vois.
D'accord. Et pour expliquer un peu aux gens, en général, quand on se fait racheter comme ça, les mecs, les acheteurs, ils te verrouillent, entre guillemets, pendant quelques années, ils te filent une partie du prix, et puis ils te disent, OK, au bout de X années, 2-3 ans, on te file le reste avec un bonus, avec une petite carotte.
Exactement, tout à fait. Et là, ils te...
Donc c'est plutôt cool pour toi de pouvoir sortir au...
Ouais, du jour au lendemain.
C'est assez rare.
Et normalement, les gens, ils en profitent direct, c'est en mode YOLO, quoi. Mmh. Et moi, j'ai continué à bosser pour la boîte pendant quasiment 3 ans.
Ah ouais?
Pas en full-time, en part-time, okay. Mais quasiment 3 ans. Et je le faisais parce que je me sentais redevable par rapport à ceux qui nous avaient rachetés et par rapport aux gens de mon équipe d'accompagner pour que ça se passe le mieux possible, en fait, tu vois. J'ai l'impression que c'était le prix à payer, tu vois.
Et tu l'as fait par contrainte. C'est-à-dire que si on t'avait dit, enfin, si t'avais pu te sentir libre par rapport à qui t'étais, à qui tu es aujourd'hui, tu vois, peut-être tu te dirais, bah, non, en fait, moi, c'est bon, j'ai fait mon temps, quoi.
Alors, par rapport à qui je suis aujourd'hui, vu comment je continue à travailler même par plaisir, je sais pas. Mais oui, je pense que peut-être que j'aurais dû un peu plus. Mais c'est dur, hein, d'arrêter de travailler.
Moi, pas de jugement. Hein,
je me souviens, il y avait un mec qui avait fait une offre, qui nous avait mis à 35 ans une offre sur la table. Je me souviens plus combien c'était genre 5 ou 6 millions, un truc comme ça, un truc où tu commences à te poser la question, c'est plusieurs millions pour chacun sur les deux. Et le mec, tu sais, je me dis putain, allez, pourquoi pas là, tu vois, je vais avoir 35 ans et je m'étais dit, je sais plus si je m'étais dit 35 ou 40, tu vois, pour en termes d'entreprise pour mettre un petit peu à l'abri. Je sais pas pourquoi j'avais cette image en tête. C'était, je sais pas pourquoi j'avais construit ce besoin. Et je me suis dit, ah, tu devrais si tu le saisis pas là et que tu le fais dans 5 ans, tu deviendras comme ton père, accro au travail. Et en fait, je sais que pendant ces 5 ans là, en fait, je suis vraiment devenu accro au travail.
Et c'était l'objectif, c'était d'augmenter l'high score, c'est ça, dans ta tête?
Non.
L'objectif de cette addiction
Au travail, tu veux dire?
Ouais.
Je sais pas. Non, c'est pas une question de sous. Travailler, c'est pas vraiment une question de sous. C'est vraiment une question de. Comme quand toi, tu me dis, tiens, Seb, tu peux venir faire un podcast. Je te dis OK. Et je me sens engagé vis-à-vis de toi de te fournir cette prestation. Je suis désolé, hein. Désolé, les gars. Je vous promets, ce podcast n'est pas rémunéré. Mais,
T'as l'impression de t'être enfermé, en fait, quand tu m'as dit OK? T'aurais pu me dire, écoute, finalement, je veux pas, hein.
Non, moi, je suis un peu yes man. C'est-à-dire, okay. On me propose, je fais. Tu vois, j'ai du mal à dire non. Et je sais que en ressortir, il peut pas en ressortir quelque chose de mal, okay. quoi.
Tu vois, bon, j'allais dire, ça aurait été pénible parce qu'on n'aurait pas pu avoir cette conversation que je trouve cool, tu vois.
Ouais, non, mais.
Ok, je comprends.
Moi, j'aime bien. Et puis, j'aime bien réfléchir aux choses, tu vois.
L'aspect ingénieur. Là.
Ouais, le conceptualiser les choses, essayer d'aller à la root cause, la racine de l'origine des problèmes, tu vois. Je me suis dit, je trouve que ton sujet de podcast, il est intéressant. Et en fait, bon, bah, en tant que mec, participer à essayer de déconstruire, excusez-moi pour ce mot trendy, le rapport à l'argent, je trouve que c'est important. Tu vois. Parce que c'est un rapport à l'argent qui a un rapport aux relations. On va pas trop parler, mais. C'est lourd, quoi, comme sujet. C'est lourd.
On va en parler.
Ouais.
Ça m'intéresse en fait parce que tu dis que t'es devenu accro au travail entre tes 35 et tes 40. Mais en fait, j'étais en train de chercher pourquoi t'étais devenu accro entre tes 35 et tes 40, tu vois.
Je suis devenu accro parce que autant avant, je travaillais parce que je pensais que c'était le rôle d'un dirigeant de surtravailler. Autant entre 35 et 40, il y a un moment où j'ai une sorte d'illumination. J'ai découvert des choses. Et en fait, j'ai craqué des trucs dans ma tête et c'est devenu un art martial que j'adorais faire. Surtout les gens qui travaillent avec moi, mes associés sur des projets ou des gens que je coach ou autres, eh ben ils comprendront la notion d'art martial. Et en fait, t'es là, ben quand tu fais du karaté, tu fais 100 fois le même coup de poing, les gens le comprennent pas, mais en fait, non, c'est un peu différent parce que et en fait, t'as envie de pratiquer ça. Et aujourd'hui, je suis plus un entrepreneur, je suis investisseur et coach d'entrepreneur, mais je suis coach, je suis pas un consultant. C'est-à-dire, le consultant, tu te dis, je veux perdre 5 kilos, il te dit quoi manger, il te fait une liste. Le coach, tu lui dis, tu veux perdre 5 kilos, à 6 heures du matin, alors qu'il pleut, il sonne à ta porte et il vient courir avec toi. Tu vois. Et il est là parce qu'il aime courir, pas parce qu'il aime donner des conseils et prendre des sous, en fait. Tu vois le truc
ouais.
Quand j'ai découvert ça, en fait, c'est pour ça que je travaille. Parce que c'est ma vie, c'est mon activité. Alors, bien évidemment, j'ai envie de profiter du high score de la personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai investi dans la boîte, c'est pour récupérer de la valeur qu'on crée ensemble, tu vois. Mais c'est vraiment par amour, tu vois, du geste. De résoudre des problèmes compliqués avec des gens smart, d'avoir des moments où on fait mince, comment on va faire l'année prochaine, on est en train de prendre le mur. Enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est dur, quoi.
Vas-y, pardon.
T'es plus le pilote.
Ouais.
T'es plutôt à côté ou derrière, tu dis, prends à droite. Et s'il prend à gauche, bon, bah, c'est lui qui prend à gauche. Mais tu prends quand même léger, quoi. Tu vois, tu prends quand même là. Ouh là là, ça secoue, tu vois.
C'est trop intéressant ce que tu me dis parce que je crois que c'est un truc qui est parfois compliqué pour les gens qui ont peut-être pas d'argent ou qui manque d'argent, tu vois, d'avoir ce truc de forcément quand t'as de l'argent, tu fais tout pour jouer pour l'argent. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand tu disais, bah, moi, je suis pas un très bon investisseur. En fait, quand tu viens raconter que tu le fais pour toi et parce qu'en fait, t'as envie de vivre des expériences humaines et que l'argent est pas forcément ton moteur principal, je trouve ça hyper important de le dire, tu vois, et de pas juste te référer juste à ce dénominateur ou cet étalon qui serait juste l'argent, parce qu'en fait ça enferme dans une boucle qui est l'argent est juste la raison de tout, quoi, tu vois, ou le moteur de tout, alors que j'ai pas l'impression que ce soit le cas chez toi, quoi, tu vois.
Ah bah non, mais c'est quand j'étais pas devenu un bon investisseur, c'est-à-dire que voire même quand on parle d'argent, je me rends compte que mon argent, je suis mauvais. Je prends un exemple, c'est-à-dire qu'un investisseur, normalement, tu vois, il investit, puis 5 ans plus tard ou 3 ans plus tard, il y a un nouveau tour d'investissement et il y a une sorte de bras de fer avec ceux qui arrivent et puis ceux qui sont déjà là. Puis ceux qui arrivent veulent sortir, ceux qui sont déjà là. Et toi, tu te dis, non, je suis content, j'ai mis 10 000, je veux récupérer 30 000. Mais enfin, justice, ça vaut 30 000, mais moi, je veux rester pour que ça vaille 300 000. Surtout que depuis qu'avec les nouveaux, on va, c'est sûr. Et puis eux, ils disent, non, on te rachète à 30 000. Et là, tu dis non. Et en fait, il se passe un combat autour de l'argent. On parle plus du tout du projet. Tu vois. Et là, tu dis, faut que je me défende sur l'argent, en fait. Alors qu'en fait, moi, j'étais là pour parler projet, en fait. Mais t'es obligé de développer, de devenir un petit... de jouer le game de l'argent.
Ouais.
Tu vois le truc, et t'es plus dans le game du projet. Tu devais vivre, toi, quand tu vends la boîte, tu vois, tu commences à parler de problèmes d'argent et on parle plus du tout de.
Bien sûr.
Donc,
moi, ma boîte, elle valait une valeur infinie, tu vois.
Voilà ça. Et donc, et t'apprends. Tu apprends à parler d'argent, tu apprends à les problématiques de la finance. Et donc, tu joues le game de l'argent, tu vois, genre, je sais ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tu vois. Et que, bah, de dire, bah, non, est-ce que j'ai pas mis telle clause dans le contrat, c'est pas bien, j'aurais pu récupérer plus, ou bien, j'ai lâché à un moment où, en fait, j'aurais pas dû lâcher, j'aurais pu gagner plus, enfin, pouf. Et là, bah, oui, il y a un petit côté calculateur parce que tu joues au Monopoly, mais en fait, c'est pas mon drive. C'est pas mon drive. Moi, je me dis, si on bosse bien, il y aura suffisamment d'argent pour tout le monde. Mais en fait, non, parce que même s'il y a suffisamment d'argent pour tout le monde, il y en a toujours là qui sont là pour le gratter. De toute façon, il y a des problèmes quand il y a trop d'argent ou quand il n'y a pas assez d'argent. Quand il y a trop d'argent, les gens se battent. Et puis, quand il n'y a pas assez d'argent, les gens se battent. Donc, voilà.
Donc, tu vends ta boîte. Tu deviens du jour au lendemain très riche. Tu gagnes combien de sous qui arrive sur ton compte en banque, boum, personnel pour le coup, celui de ta boîte.
Et 1, 2, il y a 8 chiffres sur mon compte. Attends, en train de faire le calcul. Attends, je calcule bien.
C'est en dizaines de millions d'euros. C'est
ouais,
ça que tu dis.
Ouais, ça dépasse.
Tu peux pas le dire ? Tu veux pas le dire ?
En fait, je sais pas, parce que j'aurais dû le regarder, parce que, en fait, si l'acheteur avait publié le chiffre.
Ah oui.
Je te dirais, mais il ne l'a pas publié. Tu vois.
Donc tu es un peu le cul entre deux chaises.
Et puis même, tu vois, même 4 ans après, je n'ai pas touché toute la somme encore.
Quoi ?
Oui, parce que tu sais, même si j'étais libre, tu peux payer la chose en plusieurs, plusieurs morceaux.
Ok.
Voilà. Et donc, ouais.
Donc ça se joue en 8 chiffres. En dizaines de millions d'euros. J'imagine pas qu'une seule dizaine de millions d'euros. Non mais
tu veux savoir.
Non, en fait, c'est pas ça, c'est que je trouve, alors je comprends l'idée de dire OK, en fait, c'est pas une info publique et en fait, ça te fait chier de pour moi, l'idée c'est à quel point ça te change la vie.
Non mais de toute façon, à partir du moment où fais un calcul, si tu prends 10 millions en fait, tu vois, si tu prends 10 millions que tu as 40 ans, qu'il te reste 50 ans à vivre. Tu vois, tu fais 50 ans divisé par 10 millions. Ça fait combien ?
Ça fait beaucoup.
Tiens, vas-y, fais le calcul.
Ça fait beaucoup.
Ah, c'est dur. Hein,
tu peux claquer beaucoup d'argent.
Voilà. Surtout que ces sous te rapportent. Donc en fait.
Oui, il y a ce truc aussi de quand tu places cet argent d'un coup d'un seul.
En fait, tu te rends pas compte.
Faut que tu fasses.
Pardon, tu te rends pas compte. Faut que je me rapproche du micro. Tu te rends pas compte et c'est marrant parce qu'une fois j'avais un rendez-vous et en fait tu te rends pas compte de la hauteur. J'ai un rendez-vous, je suis en train d'attendre et devant, et puis le mec avait une demi-heure de retard pour visiter un truc, et juste à côté t'avais un magasin Lamborghini. Ah, ça, on aime bien ces histoires, il y a des voitures, il y a des footballeurs et donc je regarde et je dis, tu sais, je me dis, ah, c'est X% de ce que j'ai sur mon compte. Je dis, tu vois, c'est beaucoup et tout, non. Et en fait je me suis trompé d'un zéro. Ah non, c'est 0,X% parce que je... Tu vois. Et je suis, ah ouais, en fait, tu fais, non, c'est beaucoup, quoi. Tu vois, tu peux pas. Donc, c'est.
Et c'est beaucoup, et en même temps, c'est rien du tout. Parce que si tu décides d'aller t'acheter une Lamborghini, ça va, ta vie, tu vois.
Oui, bien sûr, non, mais c'est rien. Ouais. Si, et surtout, je suis pas voiture. Donc, en fait,
oui, c'est ça. Faire, quoi, tu vois, vraiment... Dans l'absolu, je veux dire.
Moi, j'étais. Tu vois, j'ai mis 2 ans à me décider d'acheter un fixie à 1000 euros. Tu vois, j'étais genre que j'ai gardé 10 ans.
D'acheter un vélo, c'est ça.
Ouais. C'est ça. Et donc tu vois, c'était pas ma cam, quoi. Moi, je suis content quand j'ai un écran. Là, j'ai acheté un écran à 500 balles, 34 pouces. J'ai mis deux mois à choisir. Tu vois, donc, je suis encore là-dedans. Je suis encore dans le côté. Mais en revanche, il y a des choses où l'hôtel à 300 balles, bah, en fait, tu vois, je suis parti pendant 3 mois. J'ai fait que ça tous les jours, tu vois.
T'as passé ce cap-là?
J'ai passé le cap-là. Voire même, ça m'arrive de faire des nuits à 700, tu vois. Mais en disant, fais pas trop quand même. Tu vois. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que quand t'as ta boîte et qu'en plus c'est une boîte rentable, t'as les sous qui y arrivent en permanence, t'arrives pas à les vider. Quand t'as vendu d'un bloc, en fait c'est un bloc. C'est un bloc dont t'as la responsabilité et que jusqu'ici t'as été très mauvais à le gérer.
Comment tu fais pour... En fait, je sais pas, qu'est-ce que ça change dans ta vie de te retrouver avec autant d'argent comme ça du jour au lendemain?
Alors, il y a un truc qui est, et là, on va pouvoir en parler du rapport aux autres. C'est-à-dire que, en fait, avant, moi, j'ai une boîte, tu vois, je fais d'hébergement, ok, c'est cool, tu vois. Bon, même si après, les gens disent, ah, tu fais combien de chiffres d'affaires? Ou, t'as combien de personnes? Tu vois, on avait dépassé 100 personnes. Et donc, tu dis, ah, quand même, et puis ils viennent voir tes bureaux, ils font, oulala, tu vois. Et en fait, c'est marrant, c'est toujours, la représentation du statut. Ah, t'as des jolis bureaux, tu les connaissais en plus, c'était des clients. Et tu vois, ils étaient un peu jolis et tout, et c'était sympa. Surtout à l'époque, c'était avant les startups qui dépensaient des milliers de cents dans les bureaux. Et on s'était fait chier à faire un truc assez sympa. Et parce que on voulait avoir un cadre de vie sympa. C'est ce que j'ai pas précisé. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai fait une boîte, c'est parce que quand je faisais des entretiens, on me proposait des jobs où j'étais là, j'avais un DSI en costard cravate et ça me plaisait pas du tout. Et moi, j'avais envie de tous les jours être dans un univers qui me plaît. Donc, quel est le meilleur univers que celui que tu crées? Donc, en fait, j'ai fait une boîte pour créer mon univers. Et en fait,
t'étais en train de parler du rapport aux autres.
Oui, le statut, en fait, quand t'as vendu, tu vois, donc, hésite, il y a un petit communiqué de presse et tout. Bah, en fait, ça te donne un statut. Ok, par défaut, ça te donne un statut. Ah ouais, c'est un mec qui a exit, tu vois. Et bah, bravo.
Qui
alors,
exit,
ça
veut
quoi
dire
d'avoir...
que t'as t'es sorti de ta
voilà, boîte. Voilà, voilà. Ouais. Et donc, et en fait, on considère que t'es arrivé, t'as réussi. Je dis, bah, déjà, bon, avant, je disais des conneries et on me croyait pas. Maintenant, oh là, il dit des conneries, il a exit. Donc, ce qu'il doit dire, c'est hyper intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Bah, non, en fait, tu vois, ça a pas. Ouais. Même si ça m'a un peu détendu par rapport au rapport à mon patrimoine, parce qu'il est plus coincé, il est liquide, donc en fait je peux vraiment plus en faire ce que je veux, donc j'ai récupéré une liberté. Mais à l'inverse, je n'ai plus de statut. Tu fais quoi dans la vie? J'ai de l'argent. C'est chaud, hein, tu vois. Et donc il y a ce rapport qui change, où les gens t'écoutent alors qu'en fait où ils veulent des conseils. Alors qu'avant, je donnais des conseils, on m'écoutait pas. Voire même dans ma boîte, on m'écoutait pas. Alors que j'étais le patron. Et là, maintenant, on t'écoute parce que t'as exit. Et c'est marrant, alors, sans cracher dans la soupe, mais en fait, on parle de tous ces exits et tout, mais en vrai, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché un de mes outils et en fait, j'ai pas emmené la boîte au-delà d'un certain volume, d'un certain montant... OVH appartient toujours à OVH, au fondateur d'OVH, tu vois. Donc, ouais, c'est cool, mais en vrai, j'ai un peu pris ma retraite, en fait, tu vois. Et la retraite, est-ce qu'on considère que c'est l'aboutissement et le succès d'eux? Tu vois, non. Mais là, dans ce cadre-là, dans le cadre de. En plus, les gens sont persuadés, quand j'ai fait ma boîte, j'ai joué le jeu des startups, c'est-à-dire, je poste quand même pendant 10 ans pour après devenir super riche. Non. Je l'avais fait parce que j'avais envie effectivement de créer mon propre univers et que tous les jours je kiffais avec les gens avec lesquels je travaillais, j'adorais mes équipes, tu vois, et on s'amusait avec les équipes et on rigolait et ça me faisait plaisir d'aller vendre à Thalès en mettant un pull Batman et voilà quoi. Et puis ils trouvaient ça bizarre, mais non, on est du digital, on est des gros geeks et puis voilà. Et ça me faisait plaisir de dessiner cette société, tu vois. Et là maintenant, tu vois, je ne la dessine plus quand tu n'as plus de rôle, tu vois. Tu vois. Et résultat, ben le fait de me transformer en entrepreneur, enfin en investisseur et coach d'entrepreneur, en fait, c'était une façon de redonner du sens sans nécessairement être pieds et poings liés avec tout ton patrimoine dans le projet, quoi.
Tu vois. Parce que les gens s'imaginent, et quand je parle des gens, c'est les gens qui ont pas beaucoup d'argent ou qui doivent travailler, parce qu'en fait toi aujourd'hui t'as juste acheté ta liberté, enfin t'as gagné ta liberté, t'as pas acheté, t'as gagné ta liberté et tu peux décider de ne plus travailler si tu veux, tu vois.
Oui.
Et je crois qu'il y a un peu ce fantasme de mais pourquoi tu continues à travailler?
Ouais, alors en fait je tiens à avertir tout le monde, c'est que derrière la colline il y a rien. Vraiment, je la colline de « Ah ouais, je veux plus d'argent, je veux devenir riche », en fait, derrière, il n'y a rien. Spoiler alerte, il n'y a rien. En vrai, ça m'a rappelé à un moment où j'ai fait une dépression vers 18-20 ans, justement, quand j'ai commencé à faire de l'informatique. Et parce que, en fait, j'étais... J'étais soi-disant comblé. Toute ma scolarité, ça a été très difficile jusqu'au bac. Il fallait absolument passer le bac. Tous mes frères et sœurs passaient le bac. Bref. Et donc, je me suis accroché, sans m'accrocher, sans en vouloir y mettre, mais je me suis enlevé. Je l'ai passé. Et avant, tu réfléchis à rien. T'es là, t'es au lycée, tu t'amuses et tu sais qu'il y a un truc, il faut que tu passes le bac. Et une fois que t'as passé le bac, en fait, ça y est, t'as le choix. Tout est possible. Et tu fais exactement ce dont t'as envie. Mais en fait, c'est bizarre parce que, en fait, avant, je réfléchissais pas. J'avais juste le bac à passer. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Et en fait, quand tu te dis, tiens, je veux plus d'argent, qu'est-ce que je ferais si j'étais riche et tout. Mais en fait, c'est un leurre. Ça t'empêche de réfléchir sur ce que tu veux vraiment. Et effectivement, j'ai changé ma vie. Effectivement, je suis plus libre. Mais aujourd'hui, j'ai la même vie que, tu vois, là, je suis à moitié à Lisbonne, à moitié à Paris, je suis à moitié au Brésil et je suis à moitié à Paris. Enfin, donc, ça fait un tiers plutôt. Et ben, je continue à travailler parce que le Covid me le permet, à distance. Et je croise dans les cafés, les co-work, des consultants qui ont exactement la même vie que moi, exactement la même, sauf que peut-être qu'ils viennent en éco. Et encore, moi, je fais éco premium, je ne suis pas business. D'ailleurs, mes potes se foutent ma gueule sur ce sujet. Et donc.
Tu culpabiliserais de.
De prendre une business, ouais, j'arrive pas à prendre une business. Tu vois. Enfin, ça m'arrive de temps en temps, je suis très fatigué, que je demande à. Alors que j'ai pris un billet éco, à combien est le business. Et puis là, j'évalue. Tu vois, j'oublie que j'ai déjà acheté un billet. Enfin, bref, tu vois. Et. En fait, j'ai exactement la même vie qu'eux. Exactement la même vie qu'eux. Donc, alors oui, je peux partir un petit peu plus en voyage, mais bon, moi, ce qui me fait plaisir, c'est un écran 34 pouces. Tu vois, donc.
Qu'est-ce qui t'empêche de t'acheter une place en business, tu vois, qui te permet de pouvoir. Parce que quand tu vas au Brésil, j'imagine quoi, c'est 6-7 heures de vol, ça peut-être même plus.
9 heures pour Sao Paulo.
9 heures de te dire, ok, en fait, je vais pouvoir me mettre bien, je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir être cool. Parce que bon, t'as 44 balais aussi, c'est pas comme si t'avais non plus 75 ans, mais tu vois, t'as plus non plus 20 ans, quoi. Donc une bonne nuit.
Je vais peut-être dire un truc qui va te choquer en disant que j'avais 8 chiffres sur mon compte et que. Mais payer un billet d'avion 3500 balles pour 9 heures, 3500 balles pour 9 heures en fait, versus 350, je crois, un truc comme ça, donc 10 fois plus.
Mais ça me choque pas. Je comprends. En fait,
9 heures bah non, moi je trouve ça hyper cher.
Non, mais en fait, ça me choque pas que tu veuilles pas. L'acheter, tu vois.
Bien sûr, mais moi je trouve ça hyper cher.
Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui. Ok, c'est parce que.
Déjà, je trouve ça hyper cher. Et deux, je rappelle que, en fait, le vrai coût de l'avion, ben, c'est le coût écologique. Donc, déjà, je voyage beaucoup, donc culpabilité again. Alors, si en plus tu prends l'équivalent de 4 places éco en prenant un business, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je prends juste avant de partir, je dis est-ce qu'il reste de la place en business. Donc, tu vois, je okay. comprends, mais. Ouais, un petit côté
non, mais c'est intéressant.
Paradoxal de mais ouais de en permanence je me dis tiens les choses sont chères et j'ai l'impression d'acheter des choses chères et des fois je dépense et alors que je pourrais me faire plaisir je me fais pas plaisir je me dis j'achète des trucs chers tu vois
ok
et donc j'ai l'impression de dilapider l'argent tu vois parce que c'est un bloc c'est plus un flux tu vois. Alors qu'en fait, c'est un flux parce que tu l'investis, ça revient et tout. Bref,
oui.
T'as du mal à te dire ça.
Tu m'as dit, on s'est vu donc il y a quelques mois pour parler justement de cette interview et tout. Je reparlerai après du déj. Mais en fait, c'était trop intéressant parce que tu me disais que c'était. On a encore un peu de temps, pas.
Oui.
C'était compliqué pour toi parce que tu, de ce fait-là, t'étais en décalage horaire, donc tu travaillais avec les gens en France sur les premières heures de la nuit à Sao Paulo, et que de ce fait-là, bah après t'étais réveillé, t'allais juste faire une heure de sieste, et que tu retravaillais jusqu'à la fin de la journée, que limite t'étais cramé. Et je te disais, mais pourquoi tu te mets dans cet état-là Et tu me disais, parce qu'en fait, moi, je veux pas toucher à mon capital.
Oui.
Et que je veux faire en sorte de... Alors, je sais plus, tu me disais, il faut que je rentre 10-15 000 euros par mois pour faire en sorte de payer mes frais et
sur
tout.
Sur l'entreprise.
Sur ta boîte. Et donc, il faut que je bosse, quoi. Et je t'ai regardé avec des grands yeux en me disant, je sais pas combien t'as devant toi, tu vois, mais qu'est-ce qui fait que tu cours comme ça? Tu te sois encore mis dans cette, tu sais, cette fameuse roue
ouais.
où tu peux pas faire autrement que de courir, quoi.
Mmh. C'est une bonne question.
C'est fascinant. Non, mais bah, et pas de jugement, tu vois, parce que je...
Non. En fait, tu récupères un capital et tu dis, bon, ben, ça m'a pris des dizaines d'années de constituer ce capital. On essaie de pas trop y toucher, en fait. Et donc, aujourd'hui, pour payer mon quotidien, en fait, ben... C'est aussi le rapport à la valeur travail, tu vois, qui est très importante dans mon éducation. Bah, en fait, tu dépenses ce que tu gagnes, en fait. Tu vois. Donc, je dépense ce que je gagne. Donc, j'ai un peu de surplus, j'ai un peu de bonus pour à dépenser le cas échéant, mais j'essaye d'être à l'équilibre entre le temps que je travaille et ce que je rapporte et ce que je dépense. De pas trop changer ça. J'arrive pas à faire autrement. Je n'arrive pas à changer ça.
Ça te coûte parfois ?
De quoi de...
Bah, tu vois, tu disais que t'étais crevé, etc.
Ah non, ça me... Tu vois, genre... je me rends compte du truc complètement... C'est complètement débile, mais bon... C'est pas genre, là, au mois de novembre, j'étais... Bah, tu sais, quand on s'est vu, j'étais rincé et j'ai pris une semaine de vacances. Et je me suis dit... Donc, tu vois, j'ai pas facturé, j'ai pas machin, donc j'ai gagné moins. Et je me suis dit, oula, tu prends juste une semaine. pour les auditeurs, hein, là,
je fais des grands
yeux. Il fait des grands yeux, genre, il fait oh là là là. Et donc, c'est quand même fou, quoi. Ça veut dire,
parce
donc,
que t'étais fatigué.
Ah ouais, j'étais hyper fatigué. Donc, j'ai pris une semaine de vacances.
Et tu voulais pas prendre 15 jours.
Et je voulais pas prendre
15 jours. T'aurais pu prendre 15 jours.
Alors, le calendrier faisait que c'était pas possible pour d'autres raisons, mais ouais, j'aurais dû prendre 15 jours.
J'aurais dû prendre 15 jours.
Et je sais pas, mais mais tu sais, c'était comme à l'époque où j'avais ma boîte au tout début. J'étais avec mon ex-femme, j'ai dû partir 3 semaines en vacances sur 4 ans. Elle me le reprochait, mais en fait, c'est parce que je crois que j'avais peur de rien faire, en fait. Tu vois.
Peur du vide.
Et peur de pas assez travailler. Alors que j'étais un glandeur à l'école, quoi. C'est fou. C'est ça qui est impressionnant. Donc, c'est plutôt le rapport au travail que le rapport à l'argent. Est-ce que c'est ça aussi, tu vois? C'est de dire, tu vois, c'est un mélange entre travail, argent. Tu vois, le travail, ça crée de la valeur. La valeur, c'est sanctionné par l'argent. Donc, en fait, c'est un peu ce.
C'est ce que tu dis, c'est que derrière la colline, comme tu dis, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un rapport au travail d'une manière ou d'une autre, ou que tu vois une forme d'addiction qui n'est pas réglée, en fait, c'est vachement plus dur de réussir à profiter de ce que t'as, quoi, tu as.
Oui, une fois que tu es au-delà de la colline, bon, tu as de la colline, bon, ok, tu as gagné de l'argent, mais what else, tu vois? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alors, en fait, tu commences à réfléchir. Et en fait, c'est le seul truc que ça t'apporte si tu commences à réfléchir. Mais tu peux commencer à réfléchir avant de gagner tout cet argent, quoi, tu vois. Et effectivement, après, ça crée un leurre. C'est-à-dire que bah, t'es en haut de la colline, donc tout le monde te regarde. Waouh, le gars est arrivé en haut de la colline et il te regarde différemment. Mais en fait, tu fais pas les choses mieux. C'est juste les gens qui te regardent différemment. C'est pas toi. En fait, c'est comme la façon dont tu t'habilles. Tu vois bien que les gens, ils te parlent différemment quand t'es en costard que quand t'es habillé pour aller acheter ta baguette le dimanche matin. Le rapport, il est pas le même. Les gens te regardent pas pareil. Les filles te regardent pas pareil. Enfin, et donc, c'est juste un habillage. Ce n'est pas toi. L'argent, ce n'est pas vous. Enfin, vraiment, c'est un point qui est important, en fait. Mais on finit par l'oublier. Parce que même si toi, t'essaies de l'oublier, eux, les gens ne l'oublient pas. Et il y a des choses qui sont faciles pour toi, qui sont pas faciles pour les autres. Parce que, comme je te dis, les gens t'écoutent. Tu t'introduis auprès de quelqu'un, il sait déjà qui t'es, il sait vraiment déjà que tu vois, t'es millionnaire et donc nanana. Et en fait, toi, non, tu veux juste une relation simple et tu veux pas de biaiser la discussion qu'on a parce que tu sais que le mec, il va t'écouter, quoi, tu vois.
Mais c'est impossible, arriver à un certain point, avec des gens qui savent qui t'es.
Ben oui, et c'est. Bah, je sais pas. Moi, c'est pour ça que j'aime bien rencontrer des nouveaux gens. Parce qu'en fait, ils savent pas qui t'es. Et puis, j'aime bien. Moi, j'ai toujours travaillé le côté low profile, pas trop de mode ostentatoire et tout. Mais d'ailleurs, je dis ça parce que quand t'es arrivé là, et je me souviens que j'ai ma meilleure amie qui m'avait reproché ça, qui m'a dit attention, tu fais que de parler d'argent, que de parler d'argent, que de parler d'argent. Je dis, ah ouais, oh, mince. Tu vois, juste. Zut. Parce que et c'était plutôt en mode faut optimiser ci, faut optimiser ça, plutôt en mode high score que plutôt en mode t'as vu, on s'est parlé et puis le mec au bout d'une oui. heure ou deux il te parle d'argent.
En fait, c'est pas pour show off,
c'est pas quoi. Parce que c'est pas parce que j'en ai, mais parce que à la maison, mon père étant travaillant dans les entreprises et gérant des entreprises, nous parlait d'argent. C'était cet argent-là n'était pas tabou.
Le fameux argent qui ne t'appartient pas.
Voilà, exactement. Donc moi, l'argent qui est aliéné, pour moi, j'aime bien en parler parce que c'est pareil, c'est comme un high score, mais ça n'a rien à voir avec celui que tu gagnes. Oh, perso, quoi.
C'est fascinant. Vraiment, il y a une forme de... Je ne sais même pas si c'est une bipolarité, une voilà. forme de schizophrénie.
Ouais, voilà, c'est une schizophrénie. Enfin, y a deux mondes, deux salles, deux ambiances.
Je voudrais... T'en as un peu parlé là des autres, mais je voudrais reparler de cette fameuse anecdote, moi, qui m'a fait dire aucun avoir des trucs à se raconter. Où je t'ai offert, on est donc allé déjeuner ensemble, et je t'ai offert le déj spontanément. J'ai dit non, t'inquiète, ça me fait plaisir de te payer. Et en fait, tu m'as fait des gros yeux. Tu m'as fait vraiment. Là, vous l'avez pas les gens, mais vraiment, tu m'as fait un double take, genre de quoi tu payes. Et je me suis dit putain, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que systématiquement en fait les gens avec qui tu déjes s'attendent à ce que tu payes parce que t'as des sous, c'est ça? En tout cas, toi t'étais parti pour payer, pour m'inviter.
Ouais, ouais, ouais. C'est... En fait, il y a un truc un peu vicieux qui s'installe, c'est que tu te dis bon bah maintenant, tu vois, je peux aller au resto tous les jours, tu vois, et donc tu vas au resto et tu donnes rendez-vous à un pote et tu dis viens, on va dans ce resto. Et le resto, bah en fait, c'est un resto où le mec, quand il décide de se faire ce resto-là, il c'est plutôt, tu vois, il le fait en mode en couple, tu vois, ou un date, c'est dans son budget, en fait, tu vois. Ou bien, il se le fait, enfin, pour se faire plaisir, tu vois.
Ouais.
Et toi, t'as pas envie de lui imposer ça. Tu vois, parce que toi, c'était plus pratique, c'est là où tu vas et tout, et effectivement, là, peut-être pour 50 balles, tu vois, par personne. Et donc, ce que tu fais pour pas le mettre dans l'embarras, bah, c'est, tu dis, vas-y, je t'invite, tu vois, genre, et en fait, en fait, tout le monde trouve ça, bah, je vais pas dire tout le monde trouve ça normal, mais c'est la majorité. Je me souviens, une fois, j'avais eu un date Tinder, et elle me disait que c'était très rare le nombre de mecs qui proposait de payer, en fait, tu vois, voire même qui l'invitait, tu vois. Et donc, statistiquement, en tout cas, sur sa statistique, en fait, tu vois. Donc, en fait, les gens, moi, je me retrouve dans une situation où, bah, ils laissaient la priorité vraiment sans problème. Et encore plus, sans arrière-pensée du fait que ça représentait une somme plus dérisoire pour moi que pour n'importe qui, en fait, tu vois. Et résultat, à faire ce geste, en fait, tu te rends plus compte que tu le fais systématiquement, en fait. T'invites systématiquement quand t'es avec quelqu'un. Et que ça arrive suffisamment rarement pour que les gens insistent pour dire, non, attends, vas-y, c'est moi qui t'invite. Je paye. Non, vas-y, je paye ma part, y a pas de problème. Donc ça arrive souvent. Mais dire, non, mais c'est bon, c'est moi qui t'invite, tu vois. Bah, en fait, c'est moi le, tu vois. Alors que souvent, c'est le cas dans le sens où je l'invite la première fois, il m'invite la deuxième. Ça, c'est plus courant. Mais là, c'était la première fois. Tu dis, non, c'est moi qui t'invite, tu vois. C'est le côté, donc. Pour te dire.
De cette là, les gens partent du principe que, en fait, toi tu peux payer, donc tu payes, en fait. Et tu te retrouves dans cette situation à payer systématiquement.
Ouais. Okay. Sauf avec tes potes qui sont la même catégorie que toi, quoi.
Parce que t'as d'autres potes qui sont riches aussi, de ce fait là, qui ont pas de soucis d'argent, c'est ça?
Ouais, il y en a avec qui tu. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que toute cette flopée de start-upers qui ont fait des exits. Bah, tu te retrouves avec des nouveaux potes, enfin, que tu connaissais d'avant, tu vois, mais c'est mieux quand tu les connais d'avant parce qu'au moins tu te comprends et puis surtout tu peux partager l'expérience que tu peux pas partager trop avec d'autres, surtout quand c'est dans la même période. Parce que ceux qui ont fait ça il y a 20 ans sur la première bulle, c'est plus la même. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé le dernier épisode de, enfin, le revival de Friends où ils expliquaient qu'en fait.
Ah, je l'ai pas vu, mais.
T'as pas vu, mais il y a un moment, il y a Ross.
David Schwimmer.
Ouais, exactement. Qui dit, bah écoute, on était. Ou c'est peut-être Matt LeBlanc qui disait ça, qui disait, mais en fait, on vivait un truc tellement extraordinaire que nos potes comprenaient pas. En fait, les seules personnes qui comprenaient la situation dans laquelle on était, bah, c'était nous six en fait, tu vois. Et donc,
c'est comme les candidats de Koh-Lanta.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ils ont une communauté parce que personne d'autre peut comprendre ce qu'ils ont vécu.
Exactement. En fait. Et là, bah, c'est un peu la même chose. Et ça crée un biais parce qu'après, tu pars en vacances ensemble, mais bon, t'as des additions qui sont hors sol. Et il y a des fois, je dis ouais, stop. Des fois, je suis invité régulièrement et je pourrais partir en permanence de ci, de là, mais j'essaie de pas trop le faire et je préfère aller partir en vacances avec ma pote architecte, tu vois, dans un truc plus roots, sur une plage à être dégalé, on a froid. Parce que c'est ça la vie, en fait. C'est pas que les hôtels de ouf où tu te fais masser tous les soirs et tu es machin et tout. Tu vois. C'est pas la vie, c'est pas la vie.
Et comment tu te retrouves alors avec des potes quand t'es comme ça en vacances qui, eux, ont peut-être un rapport plus détendu et moins coupable à l'argent? Et ça te fait chier?
Bah, je
t'es pas bien?
Je sais pas si je suis pas bien. J'ai un peu le... J'ai l'impression d'avoir le rôle du mec un peu austère, quoi. Tu vois?
Le protestant.
Ouais, le...
Calmons-nous.
Oui, et, ouais, exactement. Okay. De dire, au fait, deux semaines, moi j'ai un 4 jours, tu vois. Mm. Parce que c'est le nombre d'euros à la minute qui me choque, en fait, des fois, tu vois. Et donc, mais qui me choque, mais dans lequel, c'est pas eux qui ont un problème, c'est moi, hein. Tu vois, je ne les juge pas, je me dis juste c'est moi qui ai du mal à assumer ça, quoi, tu vois.
C'est trop intéressant.
Mais en même temps, je dis merci parce qu'ils font des trucs que, tu vois, moi j'arriverais pas, ça me sort de ma zone de confort, et je dis oui, allez, vas-y Seb, tu peux faire, fais-toi plaisir, tu vois. Voilà. Et après je l'ai pas mal fait, puis après je me suis un peu calmé, tu vois, mais... et là en ce moment j'essaie de revenir sur des choses simples, tu vois.
Est-ce qu'il y a des choses dont je t'ai pas, sur lesquelles je t'ai pas amené, que dont t'aurais bien aimé parler en rapport avec l'argent? T'as pas d'enfant. On va pas parler de ça.
Non, j'ai pas d'enfant.
T'as pas potentiellement d'héritier?
Non.
Ou d'héritier?
J'ai fait des donations. Et je me suis posé la question du testament, en fait. Et je me suis dit, tiens, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai l'avantage d'avoir 11 neveux, tu vois. Mais même si je découpe et je fais 11 par égal, en fait, je me dis, si tu leur donnes cet argent, est-ce que c'est un cadeau?
Grande question.
Voilà, et donc je me suis donné un montant au-delà duquel, en fait, fallait pas que ça dépasse, et le reste, c'est leurs bonnes œuvres, tu vois. Mm. Parce que, c'est, tu vois, j'avais une copine pareille qui était... Tu as vendu sa boîte, tu te dis, moi, je veux mourir broke et que mes enfants, ils aient juste ce qu'il faut. D'ailleurs, tu le vois bien, hein. La plupart des multimillionnaires disent, bah, en fait, j'ai rien donné à mes enfants, je donne tout. Alors, en fait, pas rien, c'est quand même quelques millions, oui. Mais voilà. Ça les met à l'abri du besoin. Mais c'est pas aidé, en fait. C'est vraiment pas aidé. Donc, d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand j'avais voulu faire une, bon, alors, désolé les frères et sœurs si ce passage passe, mais en fait, j'avais fait un, lors de la cession de ta boîte, t'as la possibilité de donner avec une réduction d'impôt. Donc tu profites de cette fenêtre pour finalement donner sans que l'État se sucre trop. Tu vois. Et donc je les convoque tous et je leur annonce, voilà, je vends la boîte, donc j'ai une opportunité, donc je voulais donner à chacun de mes neveux. Et voilà, je vous dis, voilà la somme et tout. Bref. Et là, tu vois, on signe avec le notaire et tout, ils se font, ouais, c'est cool, c'est bien, franchement c'est bien, c'est dans les valeurs, blablabla.
C'est combien de sous? Tu peux le dire ou pas? Tu veux pas le dire?
Je sais plus. Bah, je sais plus combien c'était.
Okay.
C'était en dizaines de milliers d'euros.
Okay. De quoi t'acheter une voiture quand t'as 18 ans, quoi.
Ouais, voilà, ou bien un apport pour un appart, tu vois, bref. Et en fait, là, les neveux, ils avaient entre 8 et 18 ans, je crois, un truc comme ça. Ou 7 et 18 ans. Et donc on signe et tout, puis ils commencent à parler, et puis il y a ma soeur, mon frère, qui dit ouais, bon, alors, quand vous allez leur annoncer? Puis il dit, bah non, on leur dit pas, moi, ils sauront à 18 ans, et tout. Puis ils disent, bah non, mais il faut quand même le dire, et tout. Et puis ils discutent, et moi, tu vois, je suis vraiment à côté. Personne me pose la question, tu vois. pire moment, ils n'arrivent pas à se décider. Non, mais en fait, on va laisser à Sébastien le soin de décider, tu vois. Et moi, c'est marrant parce que j'avais l'intention de leur dire, mais quand j'ai vu que c'était sujet à débat, j'ai dit bon bah on va pas, peut-être pas le dire. Puis je me suis dit, bon, on va pas le dire. Et puis j'ai réfléchi. Et puis j'ai dit, comment je fais pour donner du sens? Et donc finalement, là, j'ai décidé de dire oui. Donc on va leur dire, on va leur annoncer. Et donc le jour où on leur a annoncé, je leur ai dit, bah ouais, vous savez ce que je fais et tout. Oui, t'as une entreprise et tout. Bah effectivement, le fruit de cette entreprise, donc le fruit de l'entrepreneuriat, m'a permis de constituer un capital et donc je vous donne un petit morceau de ce capital. Et ce capital, il est entaché du fait d'entreprendre. Et donc, vous pourrez y toucher à 18 ans. Et si vous utilisez cet argent pour entreprendre quelque chose, je remets le même montant.
Double la mise.
Je double la mise, exactement. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y en a qui disent, ah ouais, je vais acheter des jouets. Je dis, mais pourquoi t'as besoin d'acheter des jouets? T'en fous, tu vois, t'as déjà des jouets aujourd'hui, tu vois. Donc essayer de lui dire, attends, il y a rien de l'autre côté de la colline, tu vois. Et donc de lui dire, bah écoute, propose-moi un projet, parle-moi d'un projet, et puis moi je mettrai, t'auras le double, tu vois. Donc en fait ça arrive avec des idées, des projets.
Trop bien. Tu vois.
Et donc ça veut dire, ah bah oui, je pourrais créer quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas j'ai envie de, j'y mets de l'énergie, et donc cette énergie elle peut être doublée, et donc ça me permet d'avoir des discussions autour de ces sujets avec eux plutôt que de simplement le rapport à l'argent, je te donne de l'argent, quoi, tu vois.
Peut-être que c'est comme ça qu'a commencé Gérard Mulier.
Ah ouais, peut-être.
Tu sais.
Oui, avec
dans tous les cousins.
Je leur pose la question. Mais non, c'est. Mais oui, mais c'est en fait c'est important, quoi. Tu vois. Et c'est marrant parce que mais tous, hein, je pense que ce problème d'argent, il est à la tête de tout le monde. Je me souviens une de mes nièces qui un an plus tard, un anniversaire, me saute dans les rues, dit ah. T'as de la chance, toi. Je dirais, pourquoi? Mais parce que t'es riche. Tu me regardes, je suis pas riche. Être riche, c'est aussi. Tu peux être riche de façon différente. Mmh. Je dis, mon frère, il a deux enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Il y a une femme. Moi, je suis célibataire. Tu vois. Donc, en fait, il est riche de ça. Moi, je ne suis pas, en fait. Tu vois. Donc, ce n'est pas. L'argent n'est pas une fin en soi. Et c'est bien parce que ça oblige à aborder ces sujets et à démystifier la question du fait d'être un témoin toi-même bien placé parce que tu l'as vécu auprès de tes tiers, enfin de tes pères. Donc, ça c'est important, quoi. Voilà. Non, dans les sujets que tu as discuté, il y a peut-être aussi la relation amoureuse, en fait.
Ouais.
C'est marrant que tu ne m'aies pas posé la question.
Bah, en fait, t'as évoqué ton divorce, mais après je sais pas trop si t'as envie d'en parler ou pas, tu vois, de ta relation amoureuse qui s'est avortée.
Le divorce est arrivé avant que. Ouais. Que
tu veux dire aujourd'hui, depuis que t'as des sous, comment ça se passe?
Non, alors c'est pas que je te disais par rapport à la relation amoureuse, la question qui se pose c'est le mode de vie que tu peux avoir toi et l'autre personne qui elle a un travail avec les contraintes, moins de liberté, donc ça a un impact. Et puis il y a aussi le côté ben en fait t'as des facilités et en fait tu vois, je me suis toujours dit en fait ça doit être très dur d'être quelqu'un de connu parce que tu sais pas si la personne est avec toi parce que t'es connu ou pour qui tu es, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sortent entre mecs connus, tu vois.
Souvent.
D'ailleurs, il y a même un mec qui m'a dit, ah là, faut que je te présente des filles qui sont des filles d'eux et qui ont de l'argent parce que sinon tu sauras jamais. Ah, je lui en ai voulu qu'il me dise ça parce que ça m'a trotté dans la tête, en fait. Tu vois.
Et c'est pas complètement faux en même temps, quoi, tu vois.
Bah oui, non, mais c'est sûr, c'est pas complètement faux. Et puis, en fait, c'est même, parce qu'en fait, ça offre un certain confort. Et indirectement par un billard à trois bandes, je comprends quand j'ai des copines veulent pas se séparer parce que tu comprends, on est installé, c'est compliqué. Divorcer, ça coûte cher. Enfin, tu vois, donc, tu vois, c'est l'argent qui a un impact sur ton.
Bien sûr.
Sur ta vie et ton bonheur, en fait. Tu vois, donc, c'est dur dans. De la... En fait, tu peux pas y réchapper, tu peux pas le cacher. Tu peux pas faire un date et dire, oui, tu peux, hein, mais au fur et à mesure du temps, bah, viens chez toi, ton appartement, voilà, qu'est-ce qui se passe, tu vois, bon, bref. Et donc, tu peux le cacher, mais ça tient un temps, et en fait, tu peux juste, en fait, assumer, voilà, c'est là.
Ça fait partie.
Profitons-en. C'est pas moi qui t'en fais profiter, c'est on en profite. Et on essaie de le vivre ensemble. De façon un peu décomplexée. Même si c'est important de pas. Et c'est là où j'en reviens encore à l'austérité. Ben de pas trop être en mode. J'y arrive pas trop. Les voyages, les machins, les trucs. Parce que en fait, tu t'habitues sur quelque chose qui est qui doit rester exceptionnel en fait. Tu peux pas être en vacances tout le temps, sinon ça a plus de plaisir en fait. Tu vois. Et surtout toi, t'es dans une phase de ta vie. Tu vois, ma copine est plus jeune. Ben en fait, elle est dans une phase où quand moi à cette époque-là, je prenais 3 semaines
par an quoi.
Non même pas. Ah oui. 3 semaines sur 4 ans quoi. Tu
oui.
Vois.
Ah oui oui.
Donc là, vas-y viens, on va faire du kitesurf au Brésil. Bon bah non en fait tu vois. Mm. Et quand c'est elle qui dit vas-y pourquoi on va pas faire du kitesurf au Brésil, bah non. Toi t'es dans la valeur de. Mais bon c'est une autre époque aussi. Tu vois. Bon je sais pas. Donc ouais leur rapport sur la relation avec tes amis et tu vois c'est comme le resto ou comme les vacances où en fait il faut que tu toi-même le plus gros ennemi c'est toi quoi tu vois de dire non mais c'est bien si on fait un hôtel où il y a pas de clim non c'est bien si ouais on prend l'avion où il y a 4 escales parce que non parce que en fait c'est sinon tu gagnes en confort mais tu perds en expérience avec le groupe par exemple si tu parles ouais. Avec un groupe qui a pas les mêmes moyens tu vois donc
c'est fascinant.
Voilà. Ouais.
Merci beaucoup, Seb.
J'adore rien.
C'était vraiment. Enfin, c'était passionnant.
Ah oui,
vraiment.
Je sais pas. Ça a duré longtemps. Je te promets. Souvent, je suis surpris de voir que des gens peuvent arriver au bout du podcast.
C'était passionnant, vraiment. Ouais. De voir. T'as dit plein de choses. Et surtout, tu sais, je suis au début des interviews, moi. Donc, ça me nourrit en même temps, tout ce que tu es en train de me raconter pour mes interviews à venir. Donc, merci beaucoup pour tout ça.
De rien.
C'était adorable.
Salut.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.